Bien, bonsoir. Excusez-nous. Il fallait installer le matériel. Maintenant, il faut mettre plein de matériel pour les séminaires. Je vais donc démarrer la deuxième séance de ce séminaire économie générale et pharmacologie, où j'essaierai de commencer un petit peu un commentaire de ce livre d'Yann Moulier-Boutan qui s'appelle Le capitalisme cognitif. Je vais rappeler très rapidement, avant d'entrer dans la suite de ma présentation que je comptais faire à la première séance le 15 octobre, mais je n'ai pas eu le temps de finir, et en fait je ne ferai que finir l'introduction finalement aujourd'hui pour ces 6 séances. Je vais quand même rappeler ce que j'avais dit grosso modo le 15 octobre donc, déjà, ça fait déjà presque 2 mois, ça fait 2 mois. C'est passé beaucoup de choses hein, depuis deux mois. Beaucoup de choses que je n'ai pas intégrées dans mon intervention d'aujourd'hui, parce que sinon, si on n'arrête pas d'intégrer, on ne peut plus suivre son fil. En même temps, c'est un des problèmes. Hein, j'avais dit l'autre fois, il faut arriver à penser dans l'urgence, dans la vitesse. C'est un des problèmes pour ce séminaire, mais j'essaierai de faire peut-être début de 2009, un retour sur ce qui se sera passé entre le 10 octobre et 2009 à mes yeux et par rapport aux objectifs de ce séminaire. Quoi qu'il en soit, je disais il y a donc 2 mois maintenant que nous sommes dans une vraie crise, c'est-à-dire dans un moment de décision, et que c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet de ce séminaire qui avait été d'ailleurs programmé et rédigé dans ses intentions générales bien avant cette crise. Il faut aborder la question comme celle donc d'un moment de décision, et ce moment de décision, c'est celui qu'il faut, d'une décision qu'il faut prendre par rapport à des questions, c'est la thèse que je défends ici, des questions pharmacologiques. Question pharmacologique qui nécessite la préconisation d'une thérapeutique. Je suis conscient hein, du caractère ambigu de ce vocabulaire. Hein. Pharmacologie, thérapeutique, remède, poison, thérapeutique. Vous me faites crédit. Hein. J'avais dit l'autre fois à quel point, par exemple, parler de poison ou de remède pouvait être un discours fasciste hein, ou pré-fasciste. Donc, je pense que là-dessus, j'espère que vous continuez à me faire crédit sur ce point. J'essayais de dire que nous sommes en train de vivre un moment de décision dans la mesure où nous vivons un processus systémique qui conduit à ce que j'ai appelé une généralisation des empoisonnements. Les pharmacas, dans les moments de crise de ce type, se renversent en système empoisonnant. Cet empoisonnement, ce stade de renversement des pharmacas qui deviennent subitement, massivement et systémiquement empoisonnants, c'est ce que j'ai appelé un hyper-désajustement, dont je soutiens qu'il est révolutionnaire. J'emploie ce mot, donc révolutionnaire. Je vous redis que, je précise que révolutionnaire, ça ne veut pas dire nécessairement des barricades ou ce qui se passe en ce moment à Athènes. Bon, je ne suis pas du tout sûr, mais je ne crois même pas du tout que ce soit révolutionnaire. Je me trompe peut-être, mais révolutionnaire veut dire qui est désigne une chose révolue, qui fait une différence entre quelque chose qui est révolu et quelque chose qui est nouveau. Voilà. C'est ça, ce qui est révolutionnaire. Ce qui est en jeu, c'est la remise en cause radicale des conditions d'ajustement. J'appelle ajustement, j'y reviendrai plus en détail, hein, mais j'appelle ajustement, vous le savez, les relations en particulier depuis le début du 19e siècle entre l'évolution du système technique et les autres systèmes sociaux qui se sont faites, disais-je, il y a 15 jours, il y a deux mois plutôt, d'abord sous la houlette de l'État, et en particulier de l'État napoléonien, puis ces transformations jusqu'à l'État gaulien ou keynésien, on pourrait dire. Et puis tout à coup, surtout avec la révolution conservatrice et tout ce qui a commencé il y a 30 ans environ, sous la houlette du marketing, qui est devenu le dispositif d'ajustement entre les systèmes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce système-là qui est en train de s'écrouler et qu'il nous faut faire une révolution dans les lois mêmes de l'ajustement. dans les dispositifs d'ajustement. Alors, ma thèse, par ailleurs, c'est que toutes ces questions pharmacologiques et thérapeutiques sont provoquées par des mutations organologiques qui les précèdent, qui les rendent possibles et qui ouvrent tout le spectre pharmacologique tel que j'essaye de le définir, que nous essayons de le définir maintenant depuis des années à Ars Industrialis, tel qu'il rend possible le système de la bêtise, de ce que j'appellerai de plus en plus, vous le verrez, je ferai une conférence là-dessus, la bêtise systémique. Je pense que le système est devenu systémiquement bête, au point que même George W. Bush dit, bah oui, c'est peut-être trop bête pour faire ce métier, c'est quand même ce qu'il a déclaré il n'y a pas longtemps. Mais qui ouvre aussi des possibilités révolutionnaires, selon moi, de produire de l'intelligence systémique, une nouvelle intelligence systémique, sur le mode, question qui ressemble à celle qui s'était imposée avec le développement de la République des lettres et ce qui s'était passé avec la Aufklärung, la République et la philosophie des Lumières et les grands mouvements sociaux qui les ont suivis. Non pas, je ne crois pas du tout, moi, que les Lumières aient provoqué ces mouvements sociaux, mais je pense que sans les Lumières, ces mouvements sociaux n'auraient pas eu lieu. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'ils les ont provoqués. Bien entendu. Je ne crois pas du tout que la philosophie fasse des révolutions. Je n'ai jamais cru ça. Mais en revanche, je crois que l'activité noétique, l'activité de l'esprit, joue un rôle capital lorsque des milieux sursaturés, comme dirait Simon, lorsque des milieux pré-individuels ayant accumulé un certain nombre de tensions, elles peuvent, ces activités de l'esprit, tout à coup déclencher des événements et des processus, on y revient, de décision, de prise de décision. Nous sommes en ce moment là-dedans. J'avais essayé dans un premier point que j'avais appelé l'hyperdésajustement comme crise systémique et toxicité généralisée. Le but de ces différents points était de décrire ce que j'ai appelé le système du discrédit et la nécessité pharmacologique d'une désintoxication. On est vraiment sous le régime là du discours de la désintoxication. J'avais d'ailleurs soutenu déjà l'année dernière que ce que nous vivons, c'est une combinaison de trois limites du capitalisme, baisse tendancielle du taux de profit, baisse tendancielle de l'énergie libidinale, passage aux limites, tel que René Passet l'a décrit, et que la combinaison de ces trois limites engendre un renversement systémique où tout à coup les pharmacas deviennent tous toxiques. Pas toutes, je dis tous, parce que pharmaca en grec c'est le masculin pluriel, hein. C'est un masculin. Ils deviennent tous ces pharmacas toxiques, plus ou moins. Ceux qu'on a vu se toxiciser le plus manifestement, parce que ça a fait paniquer tout le monde, en particulier ceux qui se sont mis à perdre tout à coup plein d'argent, ce sont les subprimes, c'est ce qu'on appelait les actifs toxiques, mais la toxicité était beaucoup plus vaste que ça, et s'est mise à faire système. Alors, j'essaye, dans ce séminaire qui a pour titre général, économie générale et pharmacologie, de soutenir que la seule sortie possible de cette crise de toxicité est un réarmement, une critique de l'économie politique, premièrement. Et là, je m'écarte un petit peu du discours de Lazzarato ou les Boutins, etc., qui disent on a fini avec l'économie politique. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai. L'économie politique, c'était lié avec l'État. Hein ? L'économie politique, au sens où en parle Montchrétien, ou au sens où en parle Hegel, qui l'appelle science de l'État. Économie de l'État, ça avait partie liée avec l'État. Certes, mais ce n'est pas parce que l'économie politique avait partie liée avec l'État que parce que l'État serait tombé en désuétude, ce qui reste à argumenter, à mon avis, plus avant, bien plus avant, mais même si c'est le cas, et pourquoi pas, je ne suis pas du tout fermé à cette hypothèse, ça ne veut pas dire que l'économie politique a disparu pour autant. Pas parce que l'État a disparu que la puissance publique a disparu. Or, l'économie politique a quelque chose à voir d'essentiel avec la puissance publique et avec l'espace public. Lorsqu'Al Gore, par exemple, dans Raison assiégée, en appelle à la reconstitution d'un espace public, il ne parle pas forcément de l'État tel qu'on en a parlé en Europe occidentale quand on a commencé à construire l'économie politique au XVIIe siècle. Et pourtant, il s'agit bien, je crois, d'un projet de rebâtir une économie politique. Quoi qu'il en soit, cette critique de l'économie politique, à laquelle je crois qu'il faut revenir, passe par une critique de l'économie libidinale, disais-je. Une critique de l'économie libidinale, c'est là qu'il y a quelque chose d'absolument nouveau. Je dirais que l'espace de la filia, ce que j'appellerais l'espace de la filia, qu'elle soit la cité grecque, l'État européen, l'espace impérial, y compris américain, etc. Sans filia, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, moi je suis un aristotélicien là-dessus. Et cette filia suppose une économie libidinale dont il faut faire la critique. Je dis bien la critique. L'économie libidinale, par exemple, du système du surmoi patriarcal, etc., ben voilà, le XXe siècle, on a fait une critique, parfois d'ailleurs peut-être sur des bases encore fragiles, et il faut continuer à faire cette critique-là. Mais une critique de l'économie libidinale, tout comme une critique de l'économie politique, ça n'est pas une destruction de l'économie politique ou une destruction de l'économie libidinale, c'est au contraire une réélaboration de l'économie politique et de l'économie libidinale. Je soutiens que ceci, qui passe par la question du don, disais-je, en me référant à Bataille et en ayant mentionné aussi Alain Caillé et des gens comme ça, suppose la capacité à configurer des systèmes de soins. Et ce séminaire, comme ce que je fais depuis maintenant quelques mois, même 2-3 ans, est essentiellement orienté vers la nécessité d'inventer des nouveaux systèmes de soins. Mon séminaire l'année dernière, vous vous souvenez, s'appelait, pour une nouvelle politique, mais le sous-titre c'était « Économiser signifie prendre soin ». Pour moi, une économie, c'est un système de soins. C'est pas simplement un biopouvoir, une biopolitique au sens où Foucault l'a élaboré, parce qu'un système de soins n'est jamais simplement biopolitique. Le soin chez les êtres humains, c'est pas ça. Chez les cochons, oui, c'est de la biopolitique. Mais chez nous, il n'y a pas que le bios qui compte. Il y a le nous. Donc c'est de la no-politique. Et c'est donc une politique des sublimations et des sublimités. Notre question, aujourd'hui, très pratique, je rappelle que j'ai insisté en disant que nous sommes dans une affaire ici, dans ce séminaire de questions pratiques, nous avons des décisions à prendre et des propositions pratiques à élaborer, c'est de choisir un système de soins ou des principes d'un ensemble de systèmes de soins qui seraient capables de rendre leur vertu thérapeutique aux pharmacas, qui sont devenus toxiques et qu'il faut rendre à nouveau soignantes, bénéfiques, disons. Bénéfique. Mon deuxième point, c'était le changement de signe comme saturation et l'irresponsabilité générale comme désinvestissement. J'avais essayé dans ce deuxième point de montrer que la toxicité généralisée commençait à se manifester à travers les processus de saturation automobile, etc. Bon, maintenant, Ford, General Motors et Chrysler sont en train de découvrir à quel point ils auraient dû écouter Ars Industrialis, ça fait des années qu'on en parle, et ça leur aurait peut-être évité une catastrophe économique. C'est quand même mesurer l'énormité de la catastrophe. Trois géants de l'automobile américain qui s'écroulent, c'est l'Amérique qui s'écroule. Sony qui est en train de licencier en masse au Japon, c'est aussi... c'est quand même de très 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 gros problèmes. Ceci... J'ai essayé de montrer que ça reposait sur une dilution de la responsabilité systémique. Dilution de la responsabilité, donc par exemple les subprimes sont un système absolument redoutable. Et alors là, c'est vraiment extrêmement clair. Lisez le bouquin qui vient de paraître de 3 semaines de Aglietta où il décrit comment marchent les subprimes. Il décrit exactement ça, la dilution de la responsabilité. C'est-à-dire je me décharge des responsabilités que je prends. Je prends la responsabilité de donner un crédit à quelqu'un, mais je le refile à quelqu'un d'autre qui est un idiot qui va me l'acheter, qui lui-même va s'en décharger sur un autre, etc. Plus de responsable. C'est étonnant quand même, hein, dans ce modèle capitaliste réganien, parce que ça vient de ça, où on a tellement accusé l'État d'être irresponsable, que les fonctionnaires, c'était la distribution de responsabilité, etc. Comment ce système a produit la même chose en bien pire, d'une certaine manière, hein, en bien pire. Mais ça, qui conduit en réalité à un désinvestissement, c'est-à-dire une destruction de l'investissement remplacé par la spéculation d'une plus en plus court-termiste, ça fait système, disais-je, avec l'irresponsabilité de la consommation, bien entendu, et c'est ce qui engendre un vaste processus de désinvestissement, de ce que j'ai appelé un désenchantement absolu, où il n'y a plus du tout de sublimité. Où il n'y a plus du tout de sublimité. Ce qui se traduit par exemple par le fait que lorsque Greenspan fait sa déclaration à la Chambre des représentants, j'espère que vous l'avez lu parce que ça vaut son pesant d'or, où il dit « je me suis trompé pendant 18 ans, je croyais que... hein, » pas une seule seconde, il ne semble envisager la nécessité de critiquer tout ça, de théoriser tout ça, parce que pour ces gens-là, il n'y a pas de théorie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de principe, il n'y a que de l'idéologie, il n'y a aucun appareil critique possible, il n'y a pas de raison possible, il n'y a qu'une rationalité instrumentale parfaitement. Ce sont des gens extraordinairement dangereux à cause de ça, parce qu'ils ne croient à rien qu'à leur propre idéologie, et qui est une idéologie qui repose sur la liquidation des sublimités. Je dis des sublimités parce que le triangle isocèle est une sublimité, la loi de Pareto est une sublimité, toutes ces choses-là, ce sont des idéalités théoriques, donc des sublimations, qui sont produites par une libido de la libido siendi. Hein. Et donc ces gens-là ne croient absolument pas à ça. Et ça, ça conduit à un nihilisme absolu. Nous sommes à l'époque du nihilisme absolu, mais qui a son pendant chez les consommateurs. Et aussi chez les électeurs, qui ne croient plus à rien, qui ne votent plus, etc., etc. Troisième point, je m'étais arrêté sur ce troisième point, j'ai essayé de montrer que, outre ce que dit Platon, et que je répète, voire que je rabâche au risque d'être pénible, qui est que le pharmacone est toujours à la fois un remède et un poison, j'ai essayé de rappeler que c'est aussi un bouc émissaire. Le bouc émissaire est un substitut sacrificiel, en principe, et que dans les périodes de crise systémique du type de ce que nous vivons, eh bien, le danger est toujours que, au lieu d'élever le niveau d'intelligence systémique à l'expérience des erreurs qu'on a vécues, qu'on a commises, par lesquels on s'est fait leurrer, etc., au lieu de ça, on va s'en prendre à un bouc émissaire. Parce que, on va vivre ce que décrit Nietzsche sous le titre du ressentiment, ce que Deleuze appelle la réactivité, etc., et ça va donner les catastrophes politiques qu'en règle générale, ces crises économiques graves engendrent. Donc, l'urgence absolue de construire des systèmes de soins, c'est de lutter contre le caractère très vraisemblable de l'apparition de bouc émissaire, du pharmacone qui se transforme en bouc émissaire. Ce qui peut être la technique elle-même, c'est la tentation de condamner, par exemple, les subprimes, les techniques financières, les banques, etc. C'est, par exemple, la facilité de dire, quand on s'appelle Nicolas Sarkozy, on va embastiller les parachutes dorés, etc. Ce qui, évidemment, est une manière très facile de ne pas parler des vraies questions. Et ce qui est une tentation chez nous aussi, hein, parce que personne n'échappe à cette logique du bouc émissaire. Dans cette description de la logique du bouc émissaire, j'avais aussi rappelé en même temps que le capitalisme tel que le décrit Weber en particulier, lorsqu'il fonctionne, un capitalisme qui est tourné vers le futur, c'est un capitalisme qui est obligé de produire de la croyance, et que cette croyance, elle est organisée et elle est transformée en une volonté entrepreneuriale, étatique, etc. Et que c'est ça un système de soins. Et qu'un système de soins capitaliste qui a longtemps fonctionné, que j'ai toujours personnellement combattu, mais en même temps, qui a fonctionné. Et il faut être très attentif à pourquoi il a fonctionné, comment il a fonctionné, et pourquoi il ne fonctionne plus. Alors, maintenant, je voudrais aborder le quatrième point. Quatrième point qui a pour titre l'impératif de concevoir et de concrétiser un nouveau modèle industriel. ce que nous vivons en ce moment est l'effondrement d'un modèle industriel caduc. Même les patrons des grandes entreprises automobiles l'admettent. Vous avez peut-être remarqué, il y a 2 semaines ou 3 semaines dans Le Monde, un grand article qui était sur l'industrie automobile américaine et qui soulignait que les analystes, y compris de ces entreprises, disaient que le modèle industriel était terminé. Quel modèle industriel? Eh bien, celui qui a été inventé par Henry Ford, enchaînant sur Morgan, inventeur de l'industrie automobile, Morgan, fils de la banque Morgan, qui avait créé la première entreprise de fabrication automobile industrielle, petite entreprise, relayée par Ford, qui a mis en place le modèle Fordiste, qui est le modèle du, industriel du XXe siècle, après, avec ses différents avatars. Il a été acté, c'est énorme ça, hein, historiquement parlant, il a été acté que ce modèle est épuisé. C'est une chance, ça. Une chance formidable. À condition de travailler et à décrire véritablement de quoi il s'agit dans le fait... Il y a des places assises là-bas, hein, je vous signale. Il y a quelques sièges vides. Ça a été acté. Mais si nous voulons profiter de cet acte performatif, hein, acté performativement, par les victimes, ou les victimes, ou, enfin les victimes, disons les acteurs, actés par les acteurs, si je puis dire. Plus de dénégation, plus d'aveuglement. Cette dénégation qui a été à l'œuvre pendant 30 ans avec la révolution conservatrice, hein, tout à coup n'est plus de saison. Donc il y a des décillements, des yeux qui s'ouvrent, il y a des gens qui disent, ouais, le modèle est caduc. Si nous voulons que véritablement cette caducité reconnue du modèle soit féconde, soit une bonne nouvelle, si j'ose dire, eh bien, ça suppose que nous soyons capables d'esquisser au moins et de proposer les configurations d'un modèle nouveau. C'est absolument fondamental. Sinon, on va vers le chaos. Le modèle industriel caduc était caduc en réalité, selon moi, depuis longtemps. En gros, depuis les années 70. Et d'ailleurs, il est apparu, le réganisme est apparu au moment où la caducité du système est apparue. C'est-à-dire que le réganisme, le régano-satchérianisme, s'est développé pour essayer de colmater les brèches du système. Comment est-ce qu'il est apparu? À partir du moment où le MIT, ayant diffusé Halte à la croissance, ayant finalement théorisé déjà ce que René Passet a ensuite développé, l'OPEP a tiré le rideau. Et que la première grande crise de 73 a été déclenchée. Et que finalement, on a compris qu'on n'était plus dans le colonialisme et que il allait falloir composer, etc. Et que la limitation des ressources allait poser un certain nombre de problèmes. Alors là, il a été mis en œuvre un autre modèle. Ben, souvenez-vous de l'état de l'Angleterre à cette époque-là. J'ai revu récemment un film de j'arrive plus à retrouver son nom. Ken McMullen, qui filmait les docks de Londres, etc. C'était quand même terrible, hein, la crise économique anglaise, c'était quelque chose. C'est là-dessus qu'est sorti Thatcher. Bon. Et c'est là que la liquidation de toute l'initiative publique, etc., a commencé. Et que, artificiellement, on a lutté contre cette caducité. Artificiellement, n'étant pas une condamnation chez moi, c'est-à-dire pharmacologiquement. Pharmacone, c'est un artifice. Artificiellement, le thatcherisme et le réganisme ont lutté contre une caducité d'un système, le système fordiste, disons, pour aller vite, passé par le keynésianisme, et donc par le New Deal, etc. Système qui lui-même artificiellement luttait contre la baisse tendancielle du taux de profit, parce que tout ça a été... Donc ce sont des artefacts qui s'enchaînent les uns avec les autres, et c'est... Quand je dis artificiellement, ça ne veut pas dire que c'était un mensonge. Non, c'était un système qui, à un moment donné, cela dit, bute sur sa propre limite de manière irréductible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de possibilité, sans changer de système, il n'y a plus de possibilité de trouver un nouvel artefact. Donc, si je résume ce que je viens de dire, des années 70 à aujourd'hui, le deuxième système du capitalisme a continué à survivre alors qu'il était déjà largement en train d'être condamné. mais en même temps, il s'est hyper spécularisé, si je puis dire. C'est comme ça que tout le dispositif qu'on voit, qu'on a vu, ce que décrit par exemple Greenspan dans ses 18 ans de direction de la réserve fédérale, etc., c'est ça. Hein, il a mis ça en œuvre. Le consumérisme, au cours de ces années-là, est lentement mais sûrement devenu toxique. La baisse tendancielle du taux de profit, c'était déjà quelque chose de toxique. C'est ce que décrivait non seulement Marx, tel qu'il l'a appelé baisse tendancielle du taux de profit, mais déjà Hegel. Il n'appelait pas ça comme ça, il ne la théorisait pas comme une baisse tendancielle du taux de profit, mais Hegel parlait déjà des dangers de la surproduction dès le début du XIXe siècle et montrait qu'il y avait là un système empoisonnant qui risquait de se mettre en place. Et donc, dès le début du XIXe siècle, déjà des théoriciens, philosophes en l'occurrence, qui annonçait cette toxicité. Hegel la voyait comme il a vu plein de choses. Marx l'a pensée décrite, parce que lui, il est allé à Manchester et il a véritablement observé et théorisé. Il en a fait véritablement une théorie extrêmement détaillée. L'économie libidinale capitaliste, consumériste, le LCC, je l'appelle comme ça maintenant, économie libidinale capitaliste consumériste, est venu contrecarrer cette toxicité de la surproduction, de la perte de rentabilité des investissements, etc., par un nouveau pharmacone qui a été la psychotechnologie des industries culturelles, qui est apparue, le cinéma, la radio, enfin tous ces dispositifs que Benjamin a théorisés, mais qu'il n'a pas théorisé comme des psychotechnologies au service d'une lutte contre la baisse tendancielle du taux de profit, qu'il a théorisé comme des technologies utilisées par... Mussolini, il le cite, et les pouvoirs fascistes, tout comme Freud. Et ça a été essentiellement pensé à cette époque-là comme des technologies au service d'un psychopouvoir politique, pas d'un psychopouvoir économique. À ce moment-là, on n'arrive pas à penser la consommation. Elle commence à peine à émerger, il faut dire. Hein. Donc on ne peut pas reprocher du tout à Benjamin, à Freud ou à tous ces gens-là de ne pas vraiment voir venir ce qui est en train de se mettre en place là, à mon avis. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent très bien Benjamin ici dans la salle, qui me diront, que, ce qui n'est pas mon cas, qui me diront que je me trompe et qu'il y a des textes de Benjamin là-dessus, mais moi ça ne me semble pas évident. C'est là que la captation de l'attention se développe, et à travers la captation de l'attention, la captation de l'énergie libidinale. Mais cette captation de l'énergie libidinale commence à devenir destructrice dans le dernier quart du XXe siècle, surtout dans les années 80-90. C'est évidemment lié à l'apparition de la télévision, qui n'est pas n'importe quelle psychotechnologie, qui a des caractéristiques extrêmement spécifiques, que je ne vais pas redétailler ici, j'en ai souvent parlé. On en a parlé un tout petit peu au Théâtre de la Colline aussi, samedi après-midi. Enfin, je veux juste dire quand même que la télévision a des capacités de créer des courts-circuits dans les processus de transindividuation absolument énormes, dont on sait aujourd'hui que, premièrement, elle permet de, j'y reviendrai tout à l'heure, je dirais, de prolétariser les cerveaux infantiles, les appareils psychiques infantiles. Je n'emploie pas ces mots au hasard, ça peut sembler étrange de parler de prolétarisation de l'appareil psychique des enfants, mais je vous dirai pourquoi. Je crois que c'est la bonne description. De court-circuiter les structures sociales cellulaires comme la famille et toutes ces organisations qui ont été quand même, rendez-vous compte, pendant certainement 200 ou 300 000 ans, la base de l'humanité. Je dis ça parce qu'il est très probable que la structure clanique apparaît avec le néandertalien. C'est pas sûr, mais c'est très très probable. En tout cas, 40 000 ans, ça c'est absolument certain. Et que jusque à ce que, par exemple, moi, jusqu'à mes 20 ans, il y avait une structure familiale. Elle commençait à être sérieusement bousculée, mais elle existait encore. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. Bon. Par exemple, je me souviens très bien, pardonnez-moi de vous parler de ma petite vie, mais le dimanche midi, moi, il était exclu de ne pas aller déjeuner avec mes grands-parents. Bon, c'était un truc pas concevable. C'était inimaginable. C'est arrivé, mais c'était des accidents. Il était inimaginable de passer, je ne sais pas, une fête de Noël ou un truc comme ça, sans toute la famille. Bon, c'était impossible. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Enfin, je ne fais plus ça et... alors, vous allez dire, ça y est, il devient restaurateur. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que quand on dit, vous avez peut-être vu l'article hier ou avant-hier, que les personnes âgées au Japon commettent des vols pour aller en prison, pour avoir le droit de manger et d'être chauffé. Il n'y a pas qu'en prison, il n'y a pas qu'au Japon, hein, dans le monde entier, en France aussi, mais... Bon, le commentaire, c'était, il n'y a plus de structure familiale, il n'y a plus de, il y a plus aucun lien de solidarité sociale, et on a remplacé les caisses de retraite publiques, la retraite, par les fonds de pension. À partir du moment où il n'y a plus de fonds de pension, il n'y a plus rien du tout. Donc, il y a une destruction de la solidarité intergénérationnelle catastrophique. Et c'est un des très très grands problèmes des États-Unis. Ça ne fait que commencer les problèmes en Amérique. On a liquidé les systèmes de transindividuation. D'habitude, je les décris ici comme des systèmes de transindividuation du symbolique, parce que le transindividuel, ça produit essentiellement du symbolique, certes. Mais ce symbolique, lui-même, il produit d'autres choses. Et ces choses qu'il produit, c'est que, par exemple, si mon père est dans la merde, je m'en occupe. Toutes ces structures qui étaient pendant... des milliers, au moins 40 000 ans, à mon avis plutôt 300 000 ans, qui ont été des dispositifs absolument fondamentaux, revenons-y, des systèmes de soins, ont été détruits par le thatchérisme et le réganisme. Parce que Keynes n'avait jamais voulu détruire ça. Ford, c'était aussi un système d'intégration, d'ailleurs, avec d'horribles côtés, mais bon. Là, ça a été liquidé. C'est un colossal cataclysme social qui s'est produit. Bien au-delà du fait qu'il y ait des chômeurs, il y a toujours des chômeurs dans la société industrielle. C'est beaucoup plus important que ça. Et ça, il faut le repenser. Et bien ça, c'est lié à la captation de l'attention. Parce que pour capter l'attention, il faut court-circuiter, à un moment donné, le système de production de l'attention qui se produit, par exemple, dans un espace familial. Il faut court-circuiter cet espace, et en le court-circuitant, on le fait tomber en désuétude. Très rapidement, il disparaît. Il n'existe plus. Je ne vais pas revenir sur ces questions, mais à travers ça, c'est aussi l'école, c'est aussi tout ce que j'appelle les institutions de programme, dont la famille fait partie pour moi, les religions aussi, etc., qui sont liquidées. Et puis, il y a évidemment un certain nombre d'autres processus de liquidation qui s'opèrent. Je ne vais pas les décrire maintenant, mais évidemment, ces systèmes-là, j'ai décrit quatre niveaux de samedi après-midi de cela, produisent la toxicité dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, la révélation subite du caractère négatif, du caractère empoisonnant de tous ces dispositifs, qui apparaît comme ça d'une manière un peu... comment dire, comme une déferlante, comme un déferlement de mauvaises nouvelles. Très inquiétant, hein. C'est décourageant, ça vous coupe les pattes. Vous vous dites, mais on n'y arrivera jamais, on ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est très très dangereux, hein. Il faut absolument casser cette idée qu'on ne peut pas s'en sortir. Ce déferlement apocalyptique au vieux sens du terme, c'est-à-dire révélant quelque chose, hein, eh bien, il faut le transformer justement en une apocalypse au sens de quelque chose qui dévoile quelque chose, c'est-à-dire qui rend possible la pensée de quelque chose de nouveau. Ce déferlement, il se produit parce que, à un moment donné, tout ça se combine avec les limites géographiques, les limites biosphériques, les limites... véritablement matériel de fonctionnement du système, et qu'on ne peut plus du tout éviter d'être confronté à ces questions. Alors, ici, la seule possibilité est de dire qu'un autre modèle industriel, non seulement est impérativement et urgemment requis, mais qu'il est parfaitement possible. Parfaitement possible. Ici, je voudrais faire un commentaire rapidement d'un article que j'ai lu et d'un que je n'ai pas lu, que tu m'as envoyé, je parle à George Collins. Je n'ai pas lu, mais je crois que je le connais parce que Lev Manovitch était à Londres quand j'y étais. J'ai écouté la conférence qu'il a faite et je pense qu'en gros, dans sa conférence, il a dit à peu près ce qui est publié dans Critical Inquiry, c'est ça. Deux articles importants sont parus dans les dernières semaines. Un qui est paru au mois de novembre. C'était l'avant-dernier numéro de la Harvard Business Review, m'a été donné, photocopié par Antoine Dulaure. C'était le dossier central de la Harvard Business Review, qui le journal du business de Harvard, l'université de Barack Obama, qui faisait de son cahier central, de son dossier, le thème de son dossier, c'était l'économie de la contribution. Alors, j'ai lu ce texte, c'est décevant, hein, très décevant. Ça essaye de trouver un moyen d'attirer tout ce qu'on essaye de décrire à Ars Industrialis comme étant un nouveau modèle industriel, de le réencapsuler dans l'ancien modèle en transformant les consommateurs en ce qu'on appelle des prosumers, et donc de, mais quand même d'organiser une voie de retour, si je puis dire. Hein. C'est quand même la grande nouveauté. Dans le modèle classique consumériste, il n'y a pas de voie de retour. Hein. Il y a des études de marché, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de voie de retour. C'est la base du système qu'il n'y ait pas de voie de retour. Là, il faudrait analyser en détail le texte, j'ai pas eu le temps de le faire. Je dois vous dire, j'ai cassé mes lunettes, et donc je me suis retrouvé sans lunettes pendant 2 jours. Et ça, c'est des lunettes qu'on m'a prêtées, qui font d'ailleurs que je vois pas très bien, et qui me vont mal, mais que je ne peux lire que depuis le début de l'après-midi. Et donc pendant 2 jours, j'ai pas pu travailler, voilà. Et ça m'a un peu handicapé, je voulais préparer le séminaire beaucoup mieux que ça, mais j'ai perdu 2 jours. Donc je voulais en particulier faire un commentaire de cet article, j'ai pas eu le temps. En détail. En tout cas, dans cet article, il est néanmoins acté qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui est en train de se produire. Et que le marketing, la publicité, les structures de R&D des grandes entreprises, etc., doivent comprendre que leur relation à leurs customers, leurs clients, sont en train de changer radicalement, que l'existence d'Internet modifie absolument la gouvernance des entreprises, et que c'est intéressant. Alors, il faut critiquer, et je pense qu'il faut que rapidement nous décidions d'Ars Industrialis de répondre à cet article, et pourquoi pas de l'envoyer à la Harvard Business Review en réponse, en disant « vous vous trompez, c'est plus compliqué que ça, c'est plus intéressant que ça ». Mais c'est très positif qu'au moment où les spécialistes de Ford, Chrysler et GM sont en train de dire « le modèle industriel est caduc », la Harvard Business Review dit « oui, le modèle marketing est aussi caduc ». Bon, ça fait système tout ça. Et d'autre part, Lev Manovitch, qui est un artiste et un théoricien des médias, a publié, qui est d'origine russe, je pense, enfin, d'Europe centrale, il a un accent d'Europe centrale, mais qui est aux États-Unis, vient de publier donc dans Critical Inquiry un texte que je n'ai pas lu, je l'ai juste survolé, mais en le survolant, où il, alors là, il parle de ce que j'appelle moi les milieux associés, et de ce que la numérisation rend possible de relations tout à fait nouvelles, de ce que j'appelle moi des technologies relationnelles, enfin c'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est Rifkin qui en parle, mais qui pose des problèmes de ce que j'appelle la société réticulaire et une nouvelle écologie relationnelle. Je vous en parlerai en détail, ma prochaine conférence sera consacrée à ça. De quoi parlerai-je dans cette conférence? Je vous l'annonce, mais ça vous permet de mieux comprendre de quoi je parle là en ce moment. Certains d'entre vous sont peut-être venus aux entretiens du nouveau monde industriel que j'ai organisé au Centre Pompidou, il y a 2 mois environ. Et dans ces entretiens, Dominique Pasquier, qui est une sociologue de l'École des hautes études, qui travaille aussi à l'Institut Télécom, a fait une communication extrêmement intéressante sur les relations, les systèmes relationnels, en particulier des jeunes gens et des adolescents, montrant par exemple que les adolescents, eux, ont moins de relations que les adolescents, mais que les relations qu'elles développent sont ce qu'on appelle des relations fortes, tandis que les adolescents ont beaucoup, beaucoup de relations, multiplient énormément de relations, mais développent beaucoup des relations faibles, et que les rapports des adolescentes et des adolescents ne sont pas les mêmes au iPhone, au iPod, au téléphone portable, au blog, etc., en fonction de ça. À partir de là, elle a fait des développements sur les dispositifs relationnels en montrant que, par exemple, la ville est un espace techno-urbain qui permet de développer beaucoup de relations et que la bourgeoisie se développe. Là, évidemment, parce que la bourgeoisie, ça repose sur la construction de réseaux de relations, ce que Weber, d'ailleurs, va très bien montrer avec le proto-capitaliste, etc., etc. Et que, donc, le milieu urbain est un milieu où il y a beaucoup de relations, souvent plus faibles, mais beaucoup plus multiples, et qui permettent des agencements nouveaux, etc., etc. Et moi, je crois que dans ce que j'appelle les milieux associés, qui peuvent devenir des milieux hyper dissociés, parce que ce sont des pharmacas, donc ce qui sert à faire des milieux associés peut servir à faire des milieux hyper dissociés avec une hyper traçabilité qui va complètement enfermer les gens et les priver de relations sociales, suppose le développement de ce que j'appelle maintenant une écologie relationnelle. Le nouveau modèle industriel, dont je crois qu'il faut le développer, c'est ce qui consiste dans la constitution d'une économie politique et d'une économie libidinale intégrée et qui repose sur une nouvelle écologie relationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est qu'une écologie? Une écologie, c'est ce qui étudie des milieux. Les milieux sont beaucoup moins homogènes qu'on ne le prétend, bien entendu. Vivre au cœur de Paris, c'est pas la même chose que vivre dans le 19e arrondissement de Paris. Vivre à Pantin, c'est pas la même chose que vivre dans le 19e. Vivre à Roissy en France, c'est pas la même chose qu'à Pantin. Et vivre dans le Cher où j'ai une maison de campagne, c'est pas du tout la même chose que d'être à Roissy en France, etc., etc. Tous ces territoires étant maintenant vectorisés par la DSL, par ailleurs, et par la télévision depuis déjà quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle politique d'aménagement du territoire, de développement de services, etc., fait-on lorsque... Et quels effets produisent ces réseaux qui traversent tous ces territoires, dans ces différents territoires? Pas du tout les mêmes effets. Si déjà ils ne produisent pas les mêmes effets sur les filles et les garçons, vous imaginez bien qu'ils ne produisent pas du tout les mêmes effets sur les territoires. Il faut armer les élus locaux, il faut armer les responsables politiques, il faut armer les acteurs économiques, etc., pour un modèle soutenable qui permette de développer ce que je crois devoir être une économie de la contribution dans ces dimensions-là. Alors, cette question, nous l'avions abordée déjà l'année dernière, au semestre précédent, dans le séminaire du psychopouvoir à la noopolitique. Et donc là, je réarme les conclusions du séminaire précédent. Vous vous souvenez qu'au séminaire précédent, nous avions parlé de Jeremy Rifkin. J'avais commenté une note que Rifkin a faite à l'Union européenne, à l'Union européenne, sur un nouveau modèle énergétique reposant sur l'hydrogène comme technologie de stockage, modèle énergétique dont l'Europe devrait se saisir pour le développer. Et je l'avais fait en introduisant cette thématique. D'abord, en vous parlant, je me souviens, à l'ouverture, première séance du séminaire, c'était le 15 mars 2008. En vous parlant de Facebook, et je vous avais dit, on va parler de Facebook et des réseaux sociaux dans ce séminaire cette année, sachant que Facebook est passé entre début et 2008, enfin ou fin 2007, et le moment de mon séminaire, de 10 millions d'adhérents à 60 millions d'adhérents. Et je vous avais dit à la fin du séminaire, qui était en mai, je crois, ou en juin, je ne me souviens plus, entre le 15 mars et le 7 ou le 10 mai, on est passé de 60 à 75 millions d'adhérents. Eh bien, sachez que le 28 août, Facebook est passé à 100 millions d'adhérents, et que le 12 ou le 13 octobre, on a dit « Facebook va se casser la figure ». Il y avait un article dans Le Monde disant « Facebook est en train de s'écrouler économiquement. Le modèle économique de Facebook n'est pas du tout évident, etc. etc. » Le fondateur de Facebook s'en va et va créer une entreprise concurrente. Bon, il y avait apparemment de l'eau dans le gaz. Je ne suis pas du tout sûr que Facebook se casse la figure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a une croissance foudroyante et en même temps d'énormes problèmes qui se produisent là. Ce que j'ai essayé de dire dans ce séminaire... les trois limites du capitalisme, baisse en échelle du taux de profit, baisse de l'énergie libidinale, rencontre du passage aux limites, vont rencontrer une quatrième limite qui est en même temps la possibilité de sortir. C'est le développement, non pas des réseaux sociaux, mais des technologies de grammatisation de la relation sociale. Nous sommes en train de vivre, c'est la thèse que je développe maintenant, que j'ai développée à Londres, d'ailleurs où j'ai rencontré Lev Manovitch sur le même sujet, la semaine dernière, il y a deux semaines. Nous sommes en train de vivre un nouveau stade de la grammatisation Et ce nouveau stade de la grammatisation, tel que je le décris depuis maintenant quelques années, le processus de grammatisation, ce nouveau stade, c'est la grammatisation des relations. Par exemple, quand on vous parle des technologies de traçabilité où on vous profile et on est capable de gérer tous vos comportements et d'identifier tout votre réseau social et à partir de là de vous mettre en relation avec ça, c'est de la technologie relationnelle grammatisée, numérique, de très haut niveau, qui permet énormément de choses absolument nouvelles. Absolument nouvelles. Et c'est ce qui est en train de développer une véritable société réticulaire dans laquelle se met en place ce qu'il faut décrire comme un capitalisme réticulaire. Cette société réticulaire et ce capitalisme réticulaire sont porteurs de l'alternative et du choix dont je parlais la première séance, c'est-à-dire soit nous élaborons un nouveau système de soins qui constitue une écologie relationnelle et qui développe une économie de la contribution qui est une rupture avec le modèle de l'économie traditionnelle, soit de l'économie de la deuxième époque capitaliste, soit nous produisons un milieu archi-dissocié avec ces technologies. Et à ce moment-là, on sort de la démocratie, à mon avis, totalement. C'est-à-dire qu'on est dans la désubjectivation totale, dans la désindividuation totale. On est dans un système, appelons-le, orwellien, parce que tout le monde comprendra de quoi je parle. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Les technologies le permettent. La tentation des pouvoirs, d'ailleurs, avec Edwige ou d'autres, c'est dans le domaine policier, vous avez vu que il y avait un article hier dans Le Monde aussi qui disait que la multiplication des fichiers, au point qu'on met des commissions en place, Michel Alliot-Marie a dû mettre en place une commission pour faire des recommandations par rapport à ça. Bon, on va vers un système comme ça, mais je dirais que c'est toujours vers la police qu'on se tourne sur ces sujets-là, ou vers l'armée, ou vers la gendarmerie. Mais je dirais que ça, c'est de la bibine. C'est des petites questions. Je veux dire, c'est pas de la bibine, mais c'est archi connu. Les vraies questions ne sont pas là. Les vraies questions, c'est comment le mode de production, de management, de marketing, mais aussi d'éducation, de contrôle social, au sens où on parle du contrôle social au sens large, au sens où l'Église a un système de contrôle social, etc., peut intégrer tout ça d'une manière radicalement, je dirais, non seulement non démocratique, mais non républicaine. Et comment, en même temps, ça n'est que là, parce que ce n'est pas un s'opposant à ces dispositifs, ça n'est que par une invention, une intelligence systémique, justement, de ces dispositifs, qu'il est possible de produire précisément une économie de la contribution. C'est-à-dire de prendre au mot la Harvard Business Review, de prendre au mot Lev Manovitch, de prendre au mot le secrétaire d'État au numérique, là, je n'arrive plus à ce, Éric Besson, etc., en disant on va vous faire des propositions, on va vous faire un livre blanc de propositions, on va vous dire voilà comment on voit les choses. Alors on sait qu'il y a des tas de dangers, etc. On propose des dispositifs de régulation de ces dangers, on n'évitera pas que ces dangers se réalisent dans certains cas, bien entendu, mais on est aussi capable d'affirmer qu'il y a des possibilités alternatives tout à fait nouvelles. Et un modèle capitaliste, ou peut-être pas capitaliste d'ailleurs, il y a des gens qui me disent non, c'est pas capitaliste, moi je veux bien, j'y crois pas beaucoup que ce soit pas capitaliste dans l'immédiat. On pourrait dire par exemple coopératif, associatif. Quelqu'un m'avait dit, à la fête de l'humanité, m'a rappelé que Jaurès croyait beaucoup à l'association, au développement de l'association. Pourquoi pas? Toutes ces questions doivent être revisitées, mais en fonction de ces pharmacas-là. Parce que c'est là que les choses sont en train de se jouer. La relation sociale aujourd'hui est en train de se redistribuer là. Alors, sur le plan, je dirais, non pas simplement des précautions, mais véritablement des préconisations thérapeutiques d'interdiction, comme il est marqué sur les médicaments, vous savez qu'on ne peut avoir que sur ordonnance médicale. Il y a des prescriptions et surtout ne pas faire ça. Voilà. Ne pas consommer avec ça, ne pas mélanger avec ça, ne pas donner aux enfants de moins de 15 ans, ne pas consommer si vous êtes cardiaque. Bon. Par rapport à ça, dans la thérapeutique que je vous propose, qui est d'abord pour moi une pharmacologie, moi je me considère moins comme un thérapeute, comme un pharmacologue. Moi, en tant que pharmacologue, je suis capable de vous dire, par exemple, que ces pharmacas de la technologie relationnelle, qui sont des technologies qui sont en train d'adresser, comme diraient les Anglais ou les Américains, de viser, qui concernent le niveau 3 de l'organologie, c'est-à-dire le niveau social, technologie rationnelle, c'est-à-dire technologie sociale, eh bien, les prescriptions négatives qu'il faut faire, c'est-à-dire les interdictions d'usage, c'est elles permettent ces technologies de détruire le niveau 3 et de l'absorber dans le niveau 2. J'avais dit au début de mon séminaire, là, au printemps dernier, que c'était la première séance, je me souviens très bien, que l'organologie décrit 3 niveaux. D'ailleurs, maintenant, j'en ai rajouté un quatrième. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 3 niveaux basiques de l'organologie qui sont les organes psychophysiologiques, le psychosomatique, donc les organes des individus psychiques vivants, les organes, le cerveau, le foie, etc., les organes artificiels et les organisations sociales. Et j'avais essayé de montrer que quand il y a de très gros problèmes qui se posent en termes de transindividuation, c'est parce que c'est toujours les problèmes de transindividuation qui sont en jeu dans les désordres organologiques, c'est parce que un niveau mange les autres, ou un des autres. Typiquement, le danger, par exemple, avec Facebook, c'est que Facebook détruise les relations sociales et se substitue aux relations sociales et remplace les relations sociales par des automates qui produisent des êtres désindividués, désubjectivés, désaffectés, et qui sont des Columbine en puissance. Hein, parce que Columbine, c'est le début de ça. Hein, bon, le massacre de ce lycée dont vous avez tous entendu parler. En général, d'ailleurs, si le niveau 2 détruit le niveau 3, c'est-à-dire que si un réseau technique comme Facebook ronge et liquide le réseau social qui est le niveau 3, il liquide aussi le niveau 1. Pour une raison très simple que vous connaissez maintenant si vous suivez ces séminaires d'Ars Sinistris depuis régulièrement, c'est que avec Simondon, nous savons que quand le niveau 3 est liquidé, le niveau 1 l'est aussi forcément. Il n'y a pas d'annihilation psychique sans annihilation collective. Donc si vous détruisez le collectif, vous détruisez aussi le psychique. Ça veut dire qu'une politique, parce que la politique commence, et là je suis contre Foucault, par poser des interdits. Je sais bien que Foucault a découvert énormément de choses et que je lui dois énormément sur la positivité. Vous savez bien que Foucault a écrit, je ne sais plus, en 76, je crois, la psychanalyse, l'anthropologie et tout ça de notre époque, on montrait qu'on soutenu que tout se construisait sur des interdits, la loi en tant qu'elle limite, l'interdit de l'inceste, toutes ces choses-là. Bon. Je vais, moi, vous montrer que la biopolitique repose non pas sur des interdits, mais sur des intensifications, c'est-à-dire sur, au contraire, la positivité et les possibilités de ce qu'il appelle les technologies de pouvoir. Certes, c'est très intéressant tout ça, mais si ça nous fait oublier qu'il y a des prescriptions qui font que, par exemple, on vous dira, on ne donne pas, je ne sais pas moi, on ne donne pas de somnifères à un bébé, on ne donne pas d'alcool à un môme de moins de 3 ans, et même de moins de 15 ans, même maintenant, même de 18 ans aujourd'hui. Et enfin bref, tout un ensemble de choses comme ça, on n'est plus dans le soin. Hein. On est dans un non-assistance à personne en danger, surtout quand on est au courant des... Bon. Aujourd'hui, on sait par exemple que la télévision, chez les bébés de moins de 3 ans, crée des courts-circuits synaptiques. Eh bien, non-assistance à personne en danger, ça veut dire qu'il va peut-être falloir commencer à se tourner vers les pouvoirs publics en disant, attendez, le sujet, c'est peut-être pas exactement la publicité à France Télévisions, c'est peut-être plutôt la télévision générale et les enfants. Donc, là, commençons par là. Bon. Et puis, il n'y a pas que ça, parce qu'on en a trouvé beaucoup d'autres. Je suis tout à fait d'accord avec Foucault, qui tient ça d'un certain nietzschéisme sophistiqué, qu'il faut être capable d'affirmer la puissance nécessaire des technologies de pouvoir. Moi, j'en suis absolument d'accord, c'est ma position, je crois que je le démontre régulièrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de prescriptions négatives, du tout. Ça commence par là. Par exemple, la différence intergénérationnelle, telle qu'elle est structurée dans l'humanité, moi, je pense qu'elle repose sur l'interdit de l'inceste. Je suis absolument convaincu que c'est une limite indépassable de la constitution des relations intergénérationnelles, par exemple. Quoi qu'il en soit, je m'aperçois que finalement je suis encore très en retard, décidément. Quoi qu'il en soit, la transindividuation, qui est la manière dont les individuations psychiques se métastabilisent comme individuations collectives, sont ce qui se produit comme opération de socialisation pleinement effective du psychique. Et si le niveau 2 déploie des systèmes automatisés de transindividuation, c'est ça dont il s'agit en ce moment, l'automatisation de la transindividuation, mais il n'y a tout simplement plus de transindividuation, puisqu'il n'y a plus d'individus, ni d'individus collectifs, ni d'individus psychiques. Il y a des êtres vivants court-circuités, massivement court-circuités. Et là, la seule façon de lutter contre ça, c'est de renverser ces psychotechnologies en néo-technologies. C'est-à-dire de faire que, ça sera d'ailleurs un petit peu, il y aura une séance samedi après-midi à Maison de l'Europe, d'Ars Industrialis. Je vous signale qu'il n'y a que 40 places. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés d'y participer, il faut qu'ils s'inscrivent. Si on n'est pas inscrit, au-delà de 40, on ne peut plus accueillir les personnes. Donc on fait une après-midi, un après-midi là-dessus, où on va parler avec Alain Giffard, des technique de soi. Alors là, on reprend les textes de Foucault, en l'occurrence, mais c'est parce que les textes de Foucault montrent que ce sont les pharmacas, les hypomnémata, les appels qui, renversés, permettent de développer ces techniques de soi. Aujourd'hui, comment faire des techniques de soi avec les pharmacas de l'époque des technologies d'automatisation de la transindividuation? J'avais souligné que, dans le séminaire précédent, qu'ici, les choix qui doivent être opérés passe par le développement d'une économie de la contribution. Et pour le faire, j'avais insisté sur Rifkin et sur le fait que Rifkin, ce qui était intéressant pour moi, ce n'était pas tellement qu'il parle de l'hydrogène comme technologie de stockage, ce qui est d'ailleurs contesté par les scientifiques de l'hydrogène, mais c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'était qu'il disait, ça ne pourra marcher ça de toute façon que si on prend le modèle Internet contributif de la distribution, c'est-à-dire que les producteurs sont aussi consommateurs et réciproquement, et qu'il y a une distribution au sens où on parle d'intelligence distribuée, c'est-à-dire qu'il y a une répartition non centralisée de tout cela, et que finalement il faut développer à partir de l'externalité négative qui consiste dans l'épuisement des ressources, ça c'est de l'externalité négative, et la pollution produite par le CO2, etc., un nouveau modèle qui va devenir finalement producteur d'une nouvelle forme d'externalité positive, qui est une externalité positive constituée par un nouveau type de réseau, organisé différemment, en l'occurrence ici, un réseau énergétique. Alors là, j'ai employé ces deux mots d'externalité positive et négative. Tu te souviens que tu m'avais demandé ce que c'est que les externalités. Moi, je considère maintenant, et ça, c'est le fond d'entente radicale, primordiale, avec Moulier-Boutan et les gens de Multitude, que la grande question d'économie aujourd'hui, c'est les externalités, négatives et positives. Et que, autant le capitalisme productiviste et le capitalisme consumériste ont royalement ignoré les externalités, soit en les déniant, les externalités négatives en l'occurrence. Par exemple, la manière dont l'exploitation des mines dans la communauté urbaine de Lens-Liévin a totalement détruit tout le sol et qu'aujourd'hui, ça coûte des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros pour les élus locaux, là où on n'exploite plus ces mines, pour rendre encore habitables ces territoires où sont quand même des millions de gens. C'est ça, c'est typiquement des externalités positives qu'on a léguées aux générations suivantes qui se débrouillent et maintenant ça pèse sur les communautés, les communes urbaines, etc. En plus, il n'y a plus de boulot parce que là, vous voyez un peu les problèmes. Soit on les dissimulait, soit on laissait traiter ça par des processus de régulation publique. Et les externalités négatives, les externalités positives, soit on les ignorait aussi, soit on les mettait à la charge de la communauté publique. En règle générale, c'est ce qui était fait. Aujourd'hui, les externalités positives posent des problèmes tout à fait nouveaux. Si on suit ce que dit Yann Moulier-Boutan, que nous avions invité il y a 2-3 mois, un peu plus, au Théâtre de la Colline, avec son concept de pollinisation, qui mérite peut-être discussion dans le détail, mais moi je crois qu'il est très intéressant... Ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est un massif développement de la question en économie des externalités positives. Lorsque d'ailleurs la Harvard Business Review fait de l'économie de la contribution un sujet absolument central de l'économie, c'est qu'elle est en train de mettre la question des externalités positives au cœur. Qu'est-ce que c'est que les externalités positives? Je reprends la métaphore de Moulier-Boutan pour l'expliquer. C'est le fait que vous avez une activité interne. Exemple qu'il prend, mais c'est pas lui qui a inventé ça, c'est une très ancienne histoire. La ruche, hein, vous avez une activité interne des abeilles dont vous croyez qu'elles produisent du miel, alors qu'en réalité, bien sûr qu'elles produisent du miel, mais ce qu'elles apportent d'essentiel à la planète, c'est pas du miel, c'est de la fécondité végétale, et donc la possibilité de par leur simple activité en butinant, elles produisent du miel pour leurs larves, que éventuellement l'apiculteur va leur ponctionner. Mais ce dont l'apiculteur n'a pas été conscient pendant très très longtemps, c'est qu'elles apportent aussi à ses arbres fruitiers, à son blé, à ses graminées, enfin bref, à tous les végétaux, et donc à son bétail, parce qu'il faut bien du végétal pour pouvoir élever du bétail, la possibilité du fonctionnement de la sexualité végétale. C'est une sexualité végétale, mais elle n'est pas portée par un système nerveux qui vient chercher le mâle allant chercher la femelle, non, c'est simplement les insectes, comme Marcel Proust l'explique magnifiquement, dans un passage de la recherche du temps perdu, qui créent ce système de pollinisation. Et je redis pour la troisième ou quatrième fois ce mot de Einstein fort connu qui disait « L'humanité périra si elle laisse périr ses abeilles. » Ce qui fera disparaître l'humanité, ce sera la destruction des abeilles. Et je ne manque jamais de dire qu'en ce moment, les abeilles sont en train de disparaître. Je le sais parce que mon beau-père est apiculteur, et je mange un très bon miel d'ailleurs, mais qu'il a de moins en moins de miel. Chaque année, ça diminue. Et que ça, c'est une catastrophe écologique colossale qui se prépare. Il n'y a pas que les abeilles, bien entendu, comme vecteur. Mais il n'y a pas que les abeilles, malheureusement, qui disparaissent. Tous les coléoptères, hyménoptères, etc. sont menacés. Ce sont eux qui sont les vecteurs de la pollinisation. Eh bien, ça, c'est la destruction d'une externalité positive. Enfin, d'une externalité négative, d'ailleurs. Le gaucho, a-t-on dit pendant longtemps, mais c'est pas simplement le gaucho. Enfin, les anti... Comment on appelle ça? Les pesticides. Et toutes sortes d'autres choses aussi. Hein, la destruction des bocages, etc. Les externalités négatives, positives, on est en train de découvrir en réalité qu'elles sont absolument cruciales au fonctionnement des internalités. Et en ce moment, la grande crise que nous sommes en train de vivre, c'est une crise d'externalités négatives. Ça, c'est ce que nous voyons, augmentation du CO2, dérèglement climatique, pollution de tous ordres, augmentation des cancers, stress, enfin bon... Il faudra un jour qu'on fasse un atlas de tout ça, hein, détaillé de tout ça, parce que c'est incroyable, tout ce qui se combine. Mais avec surtout le développement de dispositifs d'externalités positives qui actuellement ne sont pas du tout investis par le politique et qui sont investis par le marketing, justement, et qui est en train, le marketing, d'en faire, parce qu'avec Facebook ou d'autres, on est en train d'en faire, finalement, des systèmes de contrôle, encore des milieux archi-dissociés, au lieu de faire des nouveaux milieux associés. Alors, nous, ce que nous soutenons, Ars Industriis, c'est que ça doit devenir, c'est ça qui doit devenir, en réalité, le cœur de la politique nouvelle, de l'économie de la contribution. L'économie de la contribution, c'est une économie d'abord de la protection, du développement, de l'exploitation collective et mutualisée, non pas confisquée par des intérêts exclusivement privés, de ces externalités positives, et la construction d'une, ce que nous appelons une nouvelle puissance publique, qui soit capable de rebaser toute sa politique sur ce plan-là, et en rebasant sa politique sur ce plan-là, de reconstruire du projet à long terme. Et là, évidemment, je tiens à dire, vous avez peut-être remarqué un article, c'est de Jean-Claude Schmitt, c'est pas Jean-Claude, c'est Jean-Claude, enfin c'est Schmitt en tout cas, patron d'un fonds de Sophie Nova, d'un fonds d'investissement qui s'appelle Sophie Nova, qui a fait un article il y a 10-15 jours dans Le Monde pour défendre le fonds souverain sarkozien, si je puis dire, en disant, mais il faut absolument faire ça, parce qu'il faut reconstruire du long terme. Il faut reconstruire de l'investissement à long terme. Il a raison, de ce point de vue-là, on ne peut être que d'accord. Sauf que, si on n'a pas un modèle industriel alternatif, c'est du blabla. Si on n'a pas une capacité d'inventer quelque chose qui va nous sortir du capitalisme consumériste, on n'y arrivera pas du tout. Plus personne n'y croit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'investissement à long terme aussi. C'est parce que ce système est devenu toxique et que les gens n'y croient plus. Donc ils essayent de prendre leurs bénéfices dès que possible, le plus vite possible, mais ils ne croient plus à un investissement à long terme. Eh bien, nous croyons à un investissement à long terme. Nous y croyons, mais nous croyons que ça suppose une transformation radicale du modèle industriel. Et c'est ça l'enjeu de cette nouvelle puissance publique. Alors, par rapport à ça, je garde encore la parole 10 minutes et après on va s'arrêter pour discuter. Je suis désolé, je suis toujours trop long. Par rapport à cela, je vous parlerai bientôt d'une part d'un quatrième niveau organologique que j'ai harponné récemment, qui est le niveau biosphérique, parce que c'est aussi un niveau organologique. On ne peut pas avoir des organes physiologiques comme le foie, etc., si dans l'environnement, il y a des toxines qui détruisent mon foie. Donc l'environnement biosphérique, c'est très important. Ça fait partie du système organologique. Et en plus, c'est un système très, très, très complexe. Et j'essaierai de montrer que l'intégration des quatre niveaux organologiques passe par une relecture, ça fait longtemps que je l'annonce d'ailleurs, de la question de l'énergie, non seulement de la subsistance, mais de l'existence. Les externalités positives, ce sont des externalités qui travaillent sur l'économie des existences, et pas simplement des subsistances, c'est-à-dire par la question de ce que Amartya Sen appelle les indicateurs de développement humain, dont à mon avis, c'est très sous-développé, si je peux me permettre. C'est une grande personnalité, Amartya Sen, mais ça manque d'ambition. C'était certainement très grand à l'époque où ça a été développé, ces idées, ça fait déjà un moment. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à tout cela, il faut que nous ayons une discussion approfondie avec Yann Moulier-Boutan. Pourquoi une discussion approfondie avec Yann Moulier-Boutan ? C'est parce que ce dont je parle comme société réticulaire maintenant, développant un capitalisme réticulaire, c'est ce dont il parle comme société cognitive et capitalisme cognitif. Et ici, je pense que nous devons entrer dans un dialogue vraiment amical avec Moulier-Boutan et un certain nombre d'autres avec lesquels il travaille, Lazzarato, etc. Sur, en tout cas, ça sera moi la question que je poserai, une antithèse par rapport à leur position. À savoir que ce qu'ils décrivent comme capitalisme cognitif, qui pourrait passer pour le passage de la psychopolitique à la noopolitique, et je remarque que chez eux, il n'y a aucun discours sur la psychopolitique comme consumérisme, parce qu'il n'y a aucune question du consommateur. Il y a zéro question sur le consommateur. La question de la consommation n'existe pas dans ce modèle-là, ce qui fait qu'à mon avis, ils sont beaucoup plus marxistes qu'ils ne le croient. Ils sont beaucoup plus dans l'économie politique classique qu'ils ne le croient. Ils n'ont pas vu le tournant du XXe siècle de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, ce qu'ils ne voient pas non plus, c'est que pour le moment, le capitalisme cognitif, c'est ce qui sert à prolétariser la cognition, à mon avis. C'est-à-dire que le capitalisme cognitif, qui se développe du code-barre dans les caisses du supermarché, c'est du capitalisme cognitif, le code-barre. Hein, jusqu'au programme de trading automatisé de celui qui fait plonger de 4 milliards d'euros, c'est le crédit lyonnais, la Société Générale. Bon, tout ça, c'est du capitalisme cognitif. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme cognitif ? C'est ce qui développe des pharmacas cognitifs. C'est ça, le capitalisme cognitif. C'est ce qui développe des appareils, alors, des appareils qui viennent poursuivre ce qui s'était engagé à la fin du XVIIIe siècle, décrit par Adam Smith, c'est-à-dire la machine le métier à tisser piloté par le programme de Jacquard, hein, qui prive la tisseuse, la tisserande, je ne sais pas comment on dit, l'ouvrière de l'usine qui sait tisser, qui tout à coup on la transforme en prolétaire parce qu'elle n'a plus rien à faire d'autre que faire fonctionner le métier sur le plan moteur, mais plus aucune intelligence de la fabrication des motifs, etc. C'est un automate qui s'en occupe. C'est l'automatisation. Hein. Ça qui va se développer alors, dans tout le secteur industriel au 19e siècle, et c'est ça qui va faire les gains de productivité. Au 20e siècle, ça va se développer à travers les appareils de captation de l'attention et ça va développer les économies de service. C'est-à-dire que ça va permettre de court-circuiter et de prolétariser les consommateurs. C'est ce que j'appelais la prolétarisation du consommateur, qui est privé non plus de savoir-faire, mais de savoir-vivre. Et progressivement expulsé jusqu'au moment où il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, il n'y a plus de père, il n'y a plus besoin. Bon. Donc, enfin, il n'y a plus besoin. Bon. Ça semble de faire qu'il n'y en a plus besoin. Le capitalisme cognitif, c'est le moment où ce sont les salariés de l'idéal, les, les ingénieurs, et puis les savants, etc., les médecins les plus... qui commencent à être prolétarisés eux-mêmes, c'est-à-dire que leur savoir commence à être encapsulé, il leur échappe, il est automatisé, et finalement, ils se retrouvent à bosser dans des sociétés de services où ils sont quand même largement dépressifs, eux aussi. Et c'est pas du tout la coopération entre les cerveaux. C'est les cerveaux des nouveaux prolétaires, les prolétaires de l'intellect, qui sont là pour agencer les machines, comme Simonon l'a très très bien décrit d'ailleurs en 1958, hein, pour paramétrer les systèmes techniques, pour que les systèmes de trading, par exemple, travaillent entre eux, etc. Mais ce sont les systèmes de trading qui prennent les décisions. C'est en aucun cas les ingénieurs en question, ni même les traders. Ça, c'est une pure illusion. C'est pas du tout une coopération entre les cerveaux. C'est une soumission des cerveaux aux coopérations entre les machines, c'est-à-dire entre les systèmes de pharmaca. Alors là, nous avons un différent avec les théoriciens du capitalisme cognitif, qui est un différent, dont je suis persuadé qu'il peut se résoudre, parce que ce qui est très important dans leur truc, c'est de dire, dans ce qu'ils décrivent, ça produit des externalités positives, et en particulier chez les hackers, etc. Et ça, moi j'y crois. Donc le problème, c'est pas de dire qu'ils ont tort. Il y a aussi du capitalisme cognitif, bien entendu, y compris qui produit de l'invention, de la créativité, ce qu'on appelle des créatifs, etc. Mais ça se fait au prix d'une énorme prolétarisation. Il faut commencer par faire une critique de l'économie politique du capitalisme cognitif. C'est ce que j'appelle la nouvelle critique de l'économie politique, pour pouvoir ensuite voir ce qui, dans le capitalisme cognitif, est susceptible de faire émerger une nouvelle façon d'instancier économiquement les externalités, de produire des externalités positives et de réduire autant que possible les externalités négatives. L'autre point d'accord que nous avons avec, je crois, Moulier-Boutan et moi, alors là je parle de lui et moi, c'est que nous ne croyons pas beaucoup, pour le moment, à la disparition du capitalisme. Moi je ne crois pas à la disparition du capitalisme à court terme, mais je me trompe peut-être, hein. Il dit, c'est page 24, je ne vais pas vous la citer, que ce qu'on voit apparaître, ce n'est pas une liquidation du capitalisme, c'est un troisième type de capitalisme. Il parle de ça, qui n'a plus grand-chose à voir avec le capitalisme industriel, etc. Que parfois, il dit, nous ne vivons pas une transition socialiste. L'ironie de l'histoire tient à ce que nous vivons partout une transition d'un nouveau type de capitalisme, l'économie politique. Alors c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord. Il dit l'économie politique qui naquit avec Adam Smith ne nous permet plus d'appréhender la réalité. Certes, celle qui naquit avec Adam Smith, d'abord elle date bien avant Adam Smith, mais surtout, ce n'est pas parce que l'économie politique d'Adam Smith est liquidée qu'il n'y a plus d'économie politique. Ça, c'est ce que disait Tard, qui a plus d'économie politique, et que l'économie politique était une façon erronée de poser les problèmes. Je pense que Tard a tort, mon frère. Quoi qu'il en soit, je pense que sur ce point, nous avons des points d'accord. Là où nous n'avons plus d'accord, c'est par exemple sur ce qu'ils disent de la finance. Ce que Yann, par exemple, dit, page 28. Non seulement il dit que, néanmoins, à la différence des années 30, aucune crise financière généralisée n'a affecté le système, donc il dit que le système est parfaitement viable, c'est un peu cruel pour lui, hein, c'était 6 mois avant le début de la crise. Mais j'aimerais bien voir aujourd'hui comment on discute du capitalisme cognitif et de son rapport à la finance. J'insiste pas, il y a un bouquin qui est sorti, je n'ai pas encore lu d'ailleurs, discussion du capitalisme cognitif de Yann Moulier-Boutan, je n'ai pas encore eu le temps de le regarder et de l'acheter, mais j'aimerais bien voir quand même ce qu'on raconte sur ce qui vient de se passer là. Mais non seulement on ne voyait pas venir la crise financière, ce qui n'était pas notre cas, hein, nous on l'a vu venir, hein. Mais en plus on en fait un modèle. C'est-à-dire qu'à la fin du bouquin, la financiarisation est le modèle de tout ce qui est considéré comme étant fair value, etc., c'est-à-dire tout ce qui serait la nouvelle économie du capitalisme cognitif. Là-dessus, je crois qu'on a des points de désaccord assez radicaux. Il faudra bien que nous en discutions sérieusement, et peut-être que finalement nous nous trompons, hein, mais je pense qu'il faudra en reparler. Alors là où c'est très très intéressant, et moi je vous recommande de lire ce livre, c'est à partir de la page 38, paragraphe 3, qui s'appelle « La revanche des externalités ». C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, je dois beaucoup à ce que dit Yann Moulier-Boutan. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Mais, en revanche, la limite de cette question des externalités, c'est qu'il ne semble pas voir, du fait qu'il ne semble pas voir que le capitalisme cognitif produit de la prolétarisation, il ne semble pas voir non plus que les externalités en tant que processus de transindividuation peuvent aussi permettre de produire des courts-circuits dans la transindividuation. C'est-à-dire que ces externalités sont complètement recontrôlables et peuvent être instrumentalisées au profit exclusif, finalement, de puissances économiques ou politiques, d'ailleurs, qui les contrôlent, qui les détournent et qui produisent la désindividuation, c'est-à-dire destruction du niveau 3 et du niveau 1 par le niveau 2. Voilà. Tout ça, c'est ce qui nécessite, selon moi, une critique de la prolétarisation très détaillée, qui passerait par une critique de ce que Jacques Généreux a appelé la dissociété, d'ailleurs, hein, parce qu'il ne parle pas de la même chose que nous, mais en même temps, les milieux dissociés, ça produit ce qu'il appelle, lui, la dissociété. Mais il faudrait faire un lien là avec... Parce que l'analyse de Jacques Généreux reste, à mon avis, très classique, mais il faudrait faire un lien là-dessus, qui serait aussi une manière de rebooter sur ce que Axel Honneth, qui est beaucoup trop classique pour moi, à appeler la société du mépris, c'est-à-dire la destruction de la reconnaissance, qui est une vraie question, même si la manière dont il la pose, à mon avis, est beaucoup trop classique, adornienne, un peu dépassée, mon point de vue. Mais toutes ces questions-là, ce sont les questions qui devraient nous permettre de décrire la toxicité d'aujourd'hui et les thérapeutiques et les modèles capitalistiques, ou pas capitalistiques, ou coopératifs, ou associatifs, etc., qui permettraient de faire que de l'hyper-désajustement, on passe à un hyper-ajustement, qui serait une révolution. Car une révolution, c'est un hyper-ajustement. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution ? C'est à un moment donné, on est obligé de forcer le réel pour créer une situation nouvelle. Il faut un volontarisme politique qui fait qu'on dit, maintenant ça change. C'est-à-dire qu'on va dire à TF1, par exemple, c'est une préconisation que je ferai tout à l'heure à la télévision, je vous invite à regarder France 3, où je dirais il faut limiter peut-être la publicité de toutes les chaînes de télé à 30% de leur budget ou 40% de leur budget maximum. C'est le seul moyen d'empêcher que la publicité devienne toxique et que la publicité se détruise elle-même d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, vous verrez que le niveau de la publicité redeviendra beaucoup plus élevé. La publicité dans les années 70, c'était quand même pas du tout du genre de ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. À cette époque-là, il y avait des très très belles publicités. Tout comme les productions de Hollywood, c'était John Ford, et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Bon. C'est un peu... voilà. Je vais m'arrêter là. Je voudrais juste terminer en disant que cette discussion que je voudrais avoir avec Boulier Boutan, je pense qu'il faudrait qu'on l'ait aussi avec Ken Mackenzie Work, qu'on l'ait aussi avec P.K. Imanon, avec tous ces gens-là qui tournent autour de ces sujets des externalités. Il y en a de plusieurs profils, Weberien comme Imanon, Mackenzie Work post-marxiste, Tardien comme Moulier Boutan, mais il y en a d'autres encore dans le monde, et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à ouvrir une vraie discussion là-dessus, peut-être même un jour organiser un grand colloque sur ce sujet international. Je pense qu'on pourrait trouver de l'argent pour le faire. Voilà, merci de votre attention. La discussion est ouverte. Oui. Non, non, allez-y, allez-y. On est un peu vieille France ici, les dames d'abord. Alors.
De l'environnement déjà visible, gauchose, etc. Et pourtant, on vit de plus en plus vieux. Comment expliquer ça ?
Ah, c'est une très bonne question, oui. Je répète la question parce que je m'aperçois que dans les mises en ligne sur Arsenis Révis, on n'entend pas les questions. Donc c'est embêtant parce qu'on n'a pas de micro baladeur. Donc je répète la question. Il y a l'augmentation de toutes ces externalités négatives, pour aller vite, le gaucho, etc. Et néanmoins, on vit de plus en plus vieux, dites-vous. Pardon ?
Je ne le dis pas, on le sait.
Oui, on le sait. Non, non, mais vous le dites et c'est vrai. Pas partout quand même. Pas partout. S'il y a des endroits où l'âge moyen de vie diminue. Je vous signale. Pardon ?
Pour d'autres raisons que celle-ci.
Ça, c'est vous qui le dites.
Vous savez très bien dans les pays en voie de développement, etc., vous connaissez les conditions de vie et les raisons pour lesquelles on meurt.
Non, non, mais d'accord. N'empêche que si on vit comme ça dans cette...
Ça ne se discute même pas.
Non, non, mais si, ça, tout se discute. Je suis désolé, tout se discute.
Non, mais je veux dire, dans l'ordre de ce que vous indiquez, ça ne se discute.
Si, ça se discute. Ça se discute. Car si aujourd'hui le Zimbabwe est dans l'état où il est, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est parce que ces externalités négatives sont allées extrêmement loin. Il y a certains pays qui sont extraordinairement affectés par ces externalités négatives pour des raisons dont nous profitons, vous et moi. Moi comme vous. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous que la moyenne, évidemment, de vie, la durée de vie se prolonge. C'est évident. Et je m'en réjouis. Moi, le premier, j'ai envie... J'ai un petit enfant de 2 ans, donc j'espère bien que je vivrai au moins jusqu'à 80 ans. On va bien le voir s'autonomiser, devenir adulte. Mais c'est vrai, c'est une bonne chose. Alors, si en aucun cas, je ne mettrai un bémol au fait que c'est une bonne chose. Mais en revanche, ce que je dirais, c'est que ça se fait au prix d'une hyper-médicalisation. Et que cette hyper-médicalisation, qui produit un prolongement de la subsistance, ne produit pas forcément une intensification de l'existence. Et alors, on dit souvent que le troisième âge aujourd'hui est un troisième âge très gâté, parce que lui, il profite du système keynésien. Mais celui qui va être le troisième âge d'après, lui, n'en profitera pas, comme les Japonais dont je vous parlais tout à l'heure. Et ceux-là, demandez-leur, il y en a qui se suicident, hein. Et demandez-leur ce qu'ils en pensent. Quand même, pour faire des larcins, pour aller en prison, pour pouvoir, il faut quand même, c'est que la vie est très très dure. Hein. Donc, il faut être précis. Bien sûr que la vie se prolonge, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie d'homme? C'est pas une vie de cochon. Donc, moi, ça fait des années que j'aide un monsieur qui habite en bas de chez moi. Ça fait cinq hivers que plus que ça que je le vois. Il tient le coup à chaque fois. Je me demande comment il tient le coup. Mais c'est pas une vie qu'il a, je suis désolé. Donc, bien sûr qu'on prend. Alors, vous allez me dire, lui, il vit, lui aussi, il arrive à vivre, et peut-être qu'il vivra jusqu'à 80 ans. Oui, mais dans quelles conditions? Donc, voilà. Et par ailleurs, combien de gens vivent jusqu'à 80 ans, mais seuls, absolument abandonnés, dans des conditions. Et d'ailleurs, en regardant la télévision jusqu'à 7 heures par jour, hein, parce que l'hyperconsommation télévisuelle, c'est le troisième âge. Bon. Les grands chômeurs longue durée, le troisième âge. Et qu'est-ce qui se passe là? Il se passe aussi peut-être de très bonnes choses, d'ailleurs. Attendez, je ne suis pas en train de condamner tout ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les situations sont... il faut les décrire en détail. Et qu'un des enjeux pour moi du séminaire ici, c'est de dire, distinguons les subsistances et les existences. Et aussi un sujet dont je n'ai pas encore parlé, je voulais le faire, mais je n'ai pas eu le temps, les consistances. Et je crois que beaucoup de gens accèdent aux subsistances, beaucoup encore n'y accèdent pas, et on les maintient en vie tout en faisant qu'ils n'y accèdent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent longtemps en crevant de faim très longtemps, ils ne meurent pas, mais ils sont dans des conditions de précarité terribles, très longtemps. Et c'est très inhumain de développer cela. C'est-à-dire que c'est pas du développement. Ce sont les esclaves aussi, on les entretenait, hein, on les faisait vivre. Hein, parce qu'on en avait besoin. Donc vous comprenez que tout ça, il faut le regarder en détail. Bien entendu que, globalement positif, comme disait Georges Marchais, bien sûr que c'est globalement positif. Sauf que ce qui était globalement positif a conduit, pour Georges Marchais, à l'effondrement et de l'Union soviétique et du Parti communiste français. Donc c'est aussi vrai du capitalisme. Cette globalité positive est aussi bête que la globalité positive des pays marxistes. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler du marxisme aujourd'hui et de la manière dont il a détruit les circuits de transindividuation, et je le ferai la semaine prochaine. Mais donc, tout à fait d'accord avec vous, hein, il faut acter la positivité de ce que vous dites. Pour moi, c'est tout à fait positif. Moi, je veux vivre, j'espère vivre plus de 80 ans. Et j'espère que des gens en Afrique, y compris dans les pays, il faut protéger la vie dans tous les cas.
Mais ça, c'était malgré les pesticides, les gauchos, etc. La question que je me posais, c'est comment expliquez-vous, puisque vous avez l'air de dire que l'environnement, etc., est posé, les pesticides, on va mettre ça. On vit plus longtemps, et vous connaissez sûrement autour de vous des gens de 80, 85 ans qui restent très bien. Moi, je ne suis pas jeune, justement, et je sais comment étaient mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, et je trouve que les personnes âgées maintenant, c'est vrai que la misère. Je crois qu'au fond, pauvreté, moi, ma question, c'est pas la pauvreté entraîne l'hospitalisation, etc. C'était comment expliquez-vous que les pesticides, enfin tout l'environnement pollué, on vit néanmoins plus longtemps et de mieux en
plus. Non, mais c'est très facile, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la médicalisation, c'est Louis Pasteur, c'est tout un ensemble de choses qu'on a apprises et qui ont... C'est la biopolitique, c'est ce que Michel Foucault décrit comme étant la biopolitique. Mais ça, je vous invite à lire Foucault. Il a très bien décrit tout ça, et c'est efficace, bien entendu, c'est très efficace, la biopolitique. Et tout ça, il n'est pas du tout question... Moi, je me suis extrêmement gravement disputé un jour avec un homme qui est décédé depuis... qui s'appelait, je ne me souviens plus de son nom, le bluff technologique, comment il s'appelait, tu le connais, Jean-Paul. Il était prof au CNAM. J'arrive pardon ? Non, pas Ellul. Ah non, non. Si, Ellul, c'est le bluff technologique, tu as raison. Mais non, c'est pas Ellul, c'est un autre... Salomon. Jean-Jacques Salomon. Bon, je m'étais disputé avec lui parce qu'il avait dit qu'il fallait condamner Pasteur. Je lui dis, attendez, mais racontez pas n'importe quoi. Parce que soi-disant que c'était à cause de Pasteur qu'on avait totalement déséquilibré les systèmes démographiques, etc. Et que tout ça, c'est n'importe quoi comme discours pour moi. Et moi, je me réjouis que Pasteur ait été là et que la vie, grâce à Pasteur et à tant d'autres choses, Fleming et tant d'autres, et Keynes aussi. Hein, mais la moyenne de vie, quand même, en ce moment, sachez-le, hein, dans certains États développés, y compris en Angleterre, dans certaines populations, diminue. Il faut faire attention, hein, faut pas quand même croire.
Et à propos des ajustements au Japon, qui n'a jamais été, enfin, moi je ne l'ai pas vu dans une note de la presse française, qu'il faut savoir que, alors que les Japonais étaient parmi les pays développés, les gens qui vivaient plus longtemps, il y a 6 mois, une disposition a été prise comme quoi les personnes de plus de 65 ans n'ont plus de sécurité sociale de l'État. Donc l'État a abandonné. Ce qui explique l'article que vous avez vu en partie.
Absolument.
Donc nos systèmes actuels sont en train de se casser s'ils restent dans l'État
présent. Bien sûr, bien sûr.
Et la façon dont le troisième âge a vécu, comme vous le disiez, la génération suivante risque de payer les frais si on continue.
C'est une évidence.
Les systèmes sont en train de se casser.
Tout à fait, tout à fait. Et cette casse est organisée en plus. Hein. Elle est organisée. Il y a plusieurs questions, mais la première, c'est monsieur, excusez-moi.
Ouais. Donc, avec une petite parenthèse avant de poser ma question, c'est que un autre ancien de la Harvard Business School, c'est George Bush. Donc, pour les gens qui sont réticents quand vous parlez de pharmacologie et... ma mère est pharmacienne, et le symbole de la pharmacie, vous allez voir, dans n'importe quelle pharmacie classique, c'est qu'il y a un serpent autour, et ça peut être un poison. Et il y a une interaction intéressante dont vous avez parlé, c'est les somnifères et puis l'alcool. Et puis quand on prend un somnifère avec l'alcool, l'effet c'est l'extase. Et puis c'est un champ très riche de réflexion vis-à-vis de l'économie et des remèdes qu'on essaie de mettre. Et je trouve aussi intéressant le phénomène de rave et de la musique électronique et ainsi de suite. Mais je ne vais pas en parler ça. Ma question, c'est, vous avez touché un peu à ça à Londres, c'est l'épistémologie de la technologie. Et au fait, c'est que avec ces plateformes de trading, comme vous avez dit, malgré qu'ils touchent des millions en bonus, ces financiers, au fait, c'est des prolétaires de finance qui n'ont pas une compréhension fondamentale de ce qu'ils font. Et moi, j'avance une position, et vous pouvez me dire votre réflexion dessus, c'est que le capitalisme, c'est l'exploitation de l'asymétrie d'information. Et que la technologie, ça pousse vers la symétrie de l'information. Et que la crise dans laquelle on vit, la crise financière, c'est qu'au fait, c'est le nexus entre ces deux tendances. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je trouve ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant et pertinent. Après, en première analyse, je n'ai jamais pensé les choses exactement comme ça, mais je trouve ça très très intéressant. Parce que précisément, pour moi, le passage du milieu dissocié au milieu associé, c'est précisément quelque chose de cet ordre-là. La question que ça pose, votre intervention, c'est que ça peut être une objection à une économie de la contribution. Si on dit, sans organiser une asymétrie, peut-être qu'un circuit économique n'est plus réellement possible. Alors ça, c'est un sujet sur lequel je ne viendrai sûrement pas pendant ce semestre, mais sur lequel je reviendrai le semestre prochain. Parce que tout ce que je décris en ce moment, c'était d'ailleurs sujet... Vous étiez à Londres parce que...
Oui, oui.
Donc ce que je décris en ce moment sous le titre de l'économie de la contribution, ça apparaît comme un système bottom-upisant, si je puis dire, la bottom-upisation. C'est tout ce qu'on reproche très souvent à ceux qui sont dans l'idéologie de Internet. Ce top-down, bottom-up, c'est-à-dire qu'on est les logiques centralisées... dissociantes sont très top-down, c'est-à-dire l'État qui gouverne et impose, les entreprises qui font des logiques d'offres et qui soumettent les marchés, etc. Bon, ça, c'est des logiques top-down. Et on voit apparaître, surtout depuis les réseaux de télécommunications et les réseaux, le web, etc., maintenant, des logiques bottom-up, c'est-à-dire tout ce que... Bah justement, la Harvard Business Review, etc., c'est de ça dont ils partent, c'est-à-dire une bottom-upisation de la société. Bon. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup dans ces domaines, professionnellement parlant, dans ce que je développe au Centre Pompidou, l'Institut de Recherche et Innovation, c'est beaucoup des systèmes comme ça. Mais nous, nous pensons qu'un système purement bottom-up est aussi toxique qu'un système purement top-down. Et donc, nous pensons que ce qu'il faut faire, et que nous pensons que la trans-individuation, c'est justement ce qui s'est agencé du top-down et du bottom-up. On a absolument besoin de top-down, parce que le top-down, c'est ce qui, à un moment donné, permet de métastabiliser une individuation collective. S'il n'y a pas de top-down, il n'y a pas de normes. Et s'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de métastabilisation de l'individuation collective. Le problème, c'est où et comment se produit le top-down. Ce que j'ai essayé de montrer à Londres, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes de production de métadonnées qui permettent une gestion collective de la production du top-down. Et ça, c'est absolument passionnant. Ça, c'est absolument nouveau dans toute l'histoire de l'humanité. À mon avis, ça n'existe pas. Par contre, c'est ce qu'ont rêvé les grandes communautés religieuses. Parce que le religieux est quelque chose qui cherche à produire quelque chose comme ça. En posant en principe que le fidèle est responsable, est en première personne, si je puis dire, et pas simplement dans un nous. Donc voilà, ça, j'y viendrai plus tard. Et donc, ça serait une réponse à ce que pourrait comporter d'objection ce que vous étiez en train de dire. Mais ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant. Parce que il y a bien entendu tout un travail entre la formation économique qui s'est fait depuis très longtemps et ce rapport. Enfin, je crois que c'est une nouvelle. De nouvelles asymétries, peut-être, qui sont en train de se mettre en œuvre. Oui, monsieur avait demandé la parole. Merci de cette question, en tout cas, très intéressante.
Je voudrais revenir sur cette discussion sur l'augmentation de durée de vie et l'argument que vous avez avancé sur le terme médicalisation. Je travaille dans le domaine de la santé et il a été publié dans des journaux type New England Journal of Medicine et Lancet des études sur cette augmentation de durée de vie depuis 1850. On aurait gagné 35 ans. Et les médecins eux-mêmes ont réfléchi sur leur pratique et sur ces 35 ans d'augmentation de durée de vie depuis 1850, ils évaluent le rôle de la médecine à 1 à 2 ans. Donc, il faut relativiser l'hypermédicalisation. Et en France, les mêmes qui travaillent sur ce sujet-là évaluent cette augmentation, le rôle dans la durée de vie à 1 an, avec 6 mois sur la médecine préventive et 6 mois sur la médecine curative en moyenne. Le reste, les 34 années, viennent surtout de l'amélioration des conditions de travail, de l'hygiène, etc. Et c'est un peu à part de la médecine.
Oui, je comprends.
Sur les luttes sociales, les congés payés, etc. Voilà la raison des 34 années. Et il ne faut pas rendre plus qu'on le donne à la médecine. C'est joue un rôle, mais très peu dans la santé.
Oui, non, je suis d'accord, mais en même temps, l'hygiène fait partie pour moi de la médecine, si vous voulez.
On parlait de Pasteur, oui.
Vous comprenez, c'est-à-dire qu'on peut pas. Alors après, vous avez tout à fait raison. Quand on parle en général de médicalisation, c'est pas. J'ai pas dit hypermédicalisation, moi, d'ailleurs. J'ai parlé de. Si j'ai dit ça, bon, ben, j'ai eu tort. Mais c'est de médicalisation dont je voulais parler. Et si vous voulez de ce que Giddens, par exemple, décrirait comme la diffusion des savoirs dans les modes de vie quotidiens. Hein. Se laver les mains, c'est un savoir. Hein. Le fait de. Enfin, un certain nombre de pratiques qu'on a. Moi, on m'a appris ça à l'école quand j'étais petit. Hein. Enfin, ma mère m'apprenait à me laver les mains, mais à l'école, je me souviens très très bien, quand j'étais petit, on avait. C'est fini ça, ça n'existe plus.
Mais on sait que les médecins ne se lavent pas les mains et ça donne les maladies de nosocomiales.
Certains médecins ne se lavent pas les mains. Pas tous. Mais certains. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que. J'entendais quand même par là une transformation des savoirs, une dissémination des savoirs. C'est très compliqué de savoir où s'arrête, appelons ça peut-être pas la médicalisation, mais la médicalité. Enfin, moi, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la biopolitique, si vous voulez. Et ça, c'est très vaste. Bon. Par ailleurs, dans ce que vous dites, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que vous êtes en train de dire, en tout cas, je l'ai compris comme ça, qu'une des grandes cause de l'augmentation de la durée de vie, ce sont les luttes sociales. Et ça, c'est très important, je veux dire. Et ces luttes sociales, en ce moment, je crois qu'on régresse beaucoup par rapport à elles. Il se pourrait bien que la durée de vie régresse, bon, par rapport à ça. Mais c'est un sujet très compliqué, bien entendu. Oui, monsieur.
Il y avait une question. Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, qui est peut-être une autre façon de parler du capitalisme comme ici. Deleuze déplorait le fait que ce qu'il appelait ce nouveau monstre avait pour effet l'impossibilité d'une quelconque prise pour une événementialité qui échapperait au contrôle, précisément. Ce qui fait peut-être qu'un outil comme Facebook peut être à la fois une manière de créer du lien, mais est globalement a pour effet de déstructurer la sociabilité, disons, plus traditionnelle. Vous en appelez à une nouvelle puissance publique, je trouve ça très stimulant, mais je me demande, dans le contexte d'une société qui s'emploie généralement à liquéfier tous les centres institutionnels sous la forme du réseau, d'où est-ce que ça pourrait émerger, si ce n'est pas d'ailleurs sous le mode subversif. Ma question n'est pas très claire, mais...
Si, je crois. Moi, je pense que il m'arrive souvent de dire que la nouvelle puissance publique peut être très, très fortement composée de puissances privées. Une puissance publique, c'est une puissance de mutualisation de puissance. C'est ça, le public. Le public est constitué par du privé, en réalité. Hein. Tout le public est constitué par du privé. Les acteurs, alors, par privé, qu'est-ce qu'on entend par privé ? Les intérêts domestiques, les intérêts des grands groupes privés, tout ce qui a, la privacité est très variée. Mais pour moi, la puissance publique, c'est pas forcément le service public, c'est pas forcément l'État. C'est pour ça qu'on dit, Arsène Frédéric, la nouvelle puissance publique, ça passe, à mon avis, aussi par les États, tout comme ça passe par les régions, par les communes. Parce qu'on dit toujours l'État disparaît, mais c'est faux. Et tout comme le développement de l'État n'a pas fait disparaître les régions. Hein. C'est pas parce qu'un État apparaît qu'il n'y a plus de région. Donc c'est pas parce qu'une continentalisation se produit qu'il n'y a plus d'État non plus. Non, ce qui est important, c'est tout comme, c'est pas parce qu'on dit que le sujet métaphysique n'est plus l'origine du savoir qu'il n'y a pas de sujet aussi. Ça, c'est des gens qui ont très mal lu la philosophie de critique de la métaphysique du sujet, qui croyaient qu'on disait qu'il n'y avait plus de sujet. Non, ni Deleuze, ni Derrida, ni Guattari, ni Lacan n'ont jamais dit, alors encore moins Lacan, qu'il n'y avait pas de sujet. Ils ont simplement dit, c'est plus à partir du sujet qu'on peut penser les processus d'individuation ou de subjectivation. Alors, moi, je pense qu'il y a de l'État, il y en aura encore pendant très longtemps, qu'il y a il y a des communes, il y a des institutions publiques, il y a des nouvelles formes de puissance publique, il y a des choses qui sont apparues au cours du XXe siècle, la Société des Nations, l'ONU, l'OMC, ceci, cela, etc. Bon. Il y a ce qu'on appelle les ONG, maintenant, qui sont aussi apparues. Et puis, il y a des nouvelles formes réticulaires. Je parlais de société réticulaire, vous avez employé le terme de réseau. On voit apparaître de nouveaux dispositifs réticulaires. Bon. Eh bien, la nouvelle puissance publique doit s'agencer sur des réseaux. Et elle doit faire réseau, elle doit soutenir des réseaux. Elle doit très fortement faire participer les réseaux. C'est très compliqué, hein, ce sont des questions vraiment extrêmement compliquées, parce que ça vient casser toute la cartographie politico-mentale qu'on pouvait avoir dans la tête. Hein. Bon, si on dit, par exemple, dans un débat qui va concerner une nouvelle puissance publique en France ou en Europe, on va faire intervenir des Chinois, des Américains, des Japonais, etc. Moi, je crois absolument qu'il faut faire ça, mais comment on fait ? Comment est-ce que, quelle est la légitimité des gens ? Bon, ça, c'est tout ça, c'est inventé. Mais je crois que c'est tout à fait inventable. Alors après, est-ce que ça passe par de la subversion ? Je dirais plutôt par la révolution.
Il s'agit d'aller contre des intérêts établis.
Ah ben ça c'est évident, c'est pour ça que je dis qu'il faut un hyper-ajustement volontariste, et, comment dire, qui à un moment donné... parce que, bon, ce que je pense, pourquoi on a le débat sur l'audiovisuel public en ce moment en France ? Pour quelles raisons ? Pour mille raisons, bien entendu. Toutes plus complexes, dissimulées et en même temps évidentes que jamais. Mais... il y a une raison, à mon sens, très très importante, c'est que l'audiovisuel, en général, va très mal. Que son modèle économique, non ce machin qui a remplacé le lait, Paolotti, c'est ça ?
Paoli,
non ce Paoli, il a été mis là par les actionnaires parce qu'on considérait que ça n'allait plus bien. Et vous savez bien que l'audience de TF1 baisse, n'arrête plus de baisser. Mais c'est pas que TF1, c'est toute... ce système va mal. Il va mal parce qu'il est extrêmement menacé. Je l'ai déjà dit ici, je le répète. Le système des industries culturelles du disque a perdu 50% de chiffre d'affaires en 5 ans. Moi, je me vante d'avoir prévenu ça, hein, d'avoir dit à ces gens-là, à l'époque, qu'ils allaient au casse-pipe. On va vous l'entendre. Mais aujourd'hui, ils sont réellement... Ils ne vont pas au casse-pipe, ils sont cassés. La télé et le cinéma, d'ailleurs, vont aussi être cassés. Et là, vous avez des gens qui cherchent... c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au Théâtre de la Colline l'autre fois. J'ai pas mal, grâce à Bertrand Gilles, regardé l'histoire du Haut-Fourneau-Besmer. La sidérurgie française n'a pas voulu adopter le Haut-Fourneau-Besmer pour une raison précise, c'est que ça voulait dire qu'il fallait réduire les bénéfices que faisait la sidérurgie avec l'acier qu'elle produisait. La sidérurgie des Lorrains, des Français, les maîtres de forge, la famille de Vindel, etc. Donc ils ne voulaient pas adopter le Haut-Fourneau-Besmer, parce que ça voulait dire un très gros investissement, changer les modes de production, construire des canaux, etc. Ça voulait dire sacrifier les bénéfices pendant 10 ou 20 ans. Et ils ont demandé à l'État français de mettre des barrières douanières sur l'acier anglais, parce que les Anglais, eux, avaient adopté le Haut-Fourneau-Besmer. Et ils ont tenu pendant quelques années, jusqu'au jour où il a fallu acheter des rails d'acier en masse, parce que le train se développait, que les machines à vapeur dépassaient 40 km/h, et que les rails de fer, qui étaient jusqu'alors la norme des chemins de fer, ne marchaient plus, il fallait acheter de l'acier en masse. Et là, pour l'État français, c'est une obligation d'acheter de l'acier anglais, sinon c'était l'effondrement de la faillite des chemins de fer. Et là, ils ont fait tomber les barrières douanières, et là, la sidérurgie française a dû adopter le Haut-Fourneau-Besmer, mais en attendant, elle a perdu les grands marchés de l'État français, et elle l'a payé extrêmement cher. En ce moment, ce qu'on voit se produire, il y a beaucoup d'autres choses, évidemment, avec des calculs politiques, mais ce qu'on voit se produire dans l'audiovisuel public, c'est des défenses de rente de situation. Mais je vous parle de l'audiovisuel public, c'est exactement la même chose que l'automobile américaine voudrait faire en demandant, et que quand Obama dit « je vais les obliger, si je leur donne de l'argent, à changer », bon, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne suis pas du tout spécialiste, j'ai même pas eu le temps de regarder, mais... Voilà, là on est en ce moment, un changement de modèle économique, un hyper désajustement, ça produit nécessairement ces conflits d'acteurs installés qui ont des rentes de situation qui ne veulent pas partir, donc c'est conflictuel. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il faut que le législateur et l'action publique et les nouveaux acteurs économiques qui peuvent pèsent sur... Mais c'est loin d'être gagné. Il y avait d'autres questions tout à l'heure. Allez-y.
Je voudrais faire une remarque, puisque nous avons Georges Collins ici. Est-ce qu'il y a du logement social aux États-Unis? Non, parce que la crise des subprimes, moi je crois qu'il faut quand même se rendre compte que Michael Moore avait fait un de ses premiers reportages qui s'appelait Roger et moi, dans lequel il parlait déjà de ce problème d'expropriation des gens. Et ça date d'il y a 25 ans, cette histoire. Donc, les accords mondiaux qui se font sur la protection ou les subventions accordées à l'agriculture, au travail, etc. La population française est très subventionnée par rapport au travail. Le droit à des aides, enfin à un salaire après le travail, au chômage, etc., ça existe. Et je crois que dans les accords internationaux, c'est quelque chose d'assez inadmissible. Les pays où il y a une protection sociale. Donc, je veux en revenir. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a du logement social?
Oui, je pense qu'il y a un logement social aux États-Unis, mais ça n'a pas du tout la même dimension qu'ici. Là-bas, ce sont des logements sociaux qui remontent donc à l'époque de Franklin Delano Roosevelt, qui a lancé donc un vaste programme, qui finalement, l'évolution a été grosso modo la suivante. Les logements sociaux ont été progressivement habité par les Noirs et les catégories d'émigrés. Et à partir de l'époque de Reagan, on a fait des coupes drastiques donc, dans le financement des logements sociaux. Et maintenant, l'idéologie américaine veut que tout le monde puisse acheter sa maison. Il est devenu honteux d'habiter dans un complexe de logements sociaux.
Parce que ce déficit qui est, on ne cesse de parler des déficits publics en France depuis 20 ans, Je pense que toutes les dépenses sociales rentrent dans ce cadre, et c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'esprit américain. Et de la même façon, je le rapprocherai comme les dépenses publiques, c'est parce qu'il y a un système de santé publique en France et dans les pays européens que la durée de vie est plus longue. Il y a une surveillance, il y a vraiment des dispositifs, il y a des hôpitaux, il y a une mutualisation également qui est tout à fait différente, les systèmes de retraite, etc. Mais je rapprocherai ça, je pense que tout le monde a à peu près compris ce que je voulais dire, mais par rapport à Facebook, parce que c'est un système effectivement qui a des avantages, des intérêts, mais également qui est très toxique. On ne sait pas encore comment ça s'est financé. J'ai vu un reportage il y a 2-3 jours là-dessus. Voilà un système qui crée un déficit, c'est-à-dire des investissements des banques dans le vide total. C'est-à-dire que pour le moment, il va vendre enfin, le panel de clients qu'il a à des publicitaires. Mais pour l'instant, ça crée un énorme déficit, ce système financier. Ça comprend, j'ai vu des locaux absolument pharaoniques, c'est énorme le nombre de personnes qui travaillent là-dessus. Donc je voudrais savoir quelle est la réalité économique et vers quoi cela va, l'exploitation des données que crée un système. Donc ça, au niveau mondial, les subprimes qui ont été distribués dans le monde entier, c'était pas de manière inconsciente. Je pense qu'avec le système informatique actuel, il est tout à fait possible de savoir très exactement, et les gens des États-Unis en ont envoyé dans toutes les banques du monde, ils savaient très bien où ils les envoyaient et comment. Parce que la théorie des jeux, si tout le monde ici connaît ce de quoi il s'agit, c'est min-max, ça se résume à ces 6 lettres, le minimum de risque sur un maximum de placements. Donc, moi je ne pense pas du tout qu'il y ait une inconscience, c'est volontaire, de manière à créer un énorme déficit mondial qui aujourd'hui permet de dire on va baisser le prix du travail, parce qu'il n'est jamais question de baisser les plus-values, ni les rentes, ni etc. Mais le prix du travail, il faut absolument le baisser. Et les conditions du travail. Et le terrorisme psychosociologique que cela entraîne. Donc voilà, ma remarque.
Oui, moi je ne crois pas que les subprimes soient traçables comme ça. Et j'ai mis une raison de croire que ce n'est vraiment pas du tout le cas. Pardon ?
Ils n'ont pas, ce n'est pas les États-Unis qui ont inondé quoi que ce soit.
Non.
Leur a réclamé. Car là, il y a un processus d'empoisonnement auto-administré, c'est-à-dire c'est une liquidatisation, j'arrive jamais à le dire, volontaire. Je pense qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, il faut reconnaître un certain nombre de choses. J'ai pris la parole sauvagement, j'avais deux questions.
Attendez, je voudrais juste répondre quand même, pardonnez-moi, je vous la donne après, en particulier sur la question de Facebook. C'est évident que le modèle économique de Facebook n'est pas acquis, que la rentabilité, bon, énormément d'entreprises, cela dit, pourquoi est-ce qu'on investit dans des entreprises? C'est parce qu'elles ne sont pas rentables. Car sinon, on n'investirait pas. Et quand on dit, je vais investir, par exemple, sur 20 ans dans tel domaine, par exemple, dans Jack Alstom, parce que le retour, bon, c'est normal que ça ne soit pas rentable tout de suite. Ça n'a rien de choquant du tout. C'est même ce qui est pour moi choquant, c'est qu'on ne le fasse pas, au contraire. En revanche, là, dans le cas de Facebook, le problème, c'est est-ce que c'est du bluff ? Est-ce que c'est forcément du bluff, mais un miroir aux alouettes ? Et pourquoi finalement ça se valorise autant ? Alors d'abord, quand même, 100 millions d'adhérents en l'espace d'un an, c'est quand même quelque chose. Et on est dans la société des audiences, c'est-à-dire qu'on est dans la société. Bon, ça, c'était le modèle qui est peut-être en train de se casser la figure d'ailleurs, mais jusqu'à maintenant, on avait beaucoup parlé du rapprochement entre Time Warner et Yahoo, c'était Yahoo, non, qui avait été à l'époque la plus grosse capitalisation boursière de Wall Street. Maintenant, ça a été battu. Pourquoi? C'est parce qu'il rassemblait un énorme catalogue d'entertainment, de toutes sortes de... Pardon?
C'était
AOL. AOL, vous avez raison. AOL, Time Warner, et une liste d'abonnés absolument colossale. Bon. Rifkin a parlé de ça plus ou moins bien, mais assez bien quand même, dans l'âge de l'accès. Bon. Facebook, ça permet d'accéder à une maîtrise comportementale qui peut-être, aujourd'hui, c'est pas peut-être, c'est certain, elle est assez peu valorisable économiquement, mais le but, c'est de prendre le contrôle de la chose, et puis ça prendra de la valeur avec le temps. Donc, parce qu'à mesure que les technologies se développeront, ça se change, ces technologies se développent à une vitesse absolument foudroyante. Je ne vais pas vous parler maintenant d'Internet des objets et toutes ces choses-là, mais les sujets dans lesquels je travaille, bon, ça va extrêmement vite. Donc, je pense que ce qui se passe avec Facebook, c'est une... Moi, je crois que le modèle n'est pas bon, par ailleurs, en revanche. Mais je pense que Facebook n'est pas du tout un réseau social intéressant. Il existe, il est très puissant, il est très simple, il est, à mon avis, beaucoup trop simple. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit... Je me trompe peut-être, hein, mais... En revanche, il est un bon exemple, dans sa simplicité, il montre bien ce qui est en jeu dans ce que j'appelle la grammatisation des relations sociales. Mais je pense que le fait qu'il soit surévalué, tout ça, c'est un classique de cette économie. Je ne pense pas que ce soit une anomalie.
Une précision juste, vas-y. N'est pas coté en bourse. Hein. Donc oui. Les investisseurs ne sont pas.
Oui, tout à fait.
La surévaluation.
Il y a bien
estimée,
une dépense quelque part, il y a bien une financiarisation quelque part.
Mais
ce
n'est pas par une cotation.
Oui, non, mais qu'AOL soit basé sur effectivement le cinéma, l'entertainment, etc. Moi, je veux bien le croire, c'est tout à fait. Dès le départ avec AOL, on voyait très bien avec des possibilités, etc. Mais là, Facebook, à part un stockage de métadonnées, comme vous en avez déjà parlé, toute cette gigantomachie, et qui est. Tentaculaire, c'est-à-dire que ça ne peut que s'étendre au monde entier, puisque la technologie est possédée et distribuée par les 12 centraux d'Internet. Donc, c'est cette logique-là.
Il y a d'autres, quand même, très gros réseaux, hein, qui ne sont pas Facebook. Hein. Il y a un réseau chinois, il y a... Non, pas simplement MySpace, il y a beaucoup d'autres très gros réseaux. Bon, mais...
Quand on utilise la technologie, moi, je trouve ça magnifique, YouTube ou Deezer, etc. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut bien se poser la question de comment tout ça est financé, comment on retourne sur un investissement.
Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était en train de se... Enfin, c'est pas en train, mais une des questions qui s'est posée il y a un mois ou deux, c'était le modèle économique de Facebook. Moi, je crois qu'il n'est pas très bon, en l'occurrence. Mais je me trompe.
Pendant l'ancien système, c'était destiné... Et puis, la sortie, c'était l'introduction en bourse.
Bien sûr.
C'est évident. C'est dans l'ancien système. Et c'est comme ça que Google s'est financé. Ils n'auraient pas obtenu leur puissance. Et puis, à un moment donné, entrer en bourse, c'est une valeur absolument reposant sur, enfin, si ce n'est leur métadonnées. Il n'y avait aucune mode de calcul rationnel de savoir quelle était la valeur.
Maintenant, il y en a une. Hein. Maintenant, il y en a une. Monsieur voulait la parole.
Oui. Oui, alors, ce sont plutôt des observations et peut-être deux analogies scientifiques. Je vais être le plus bref possible. La première observation, j'avais une question, mais elle m'a été volée par les personnes derrière moi, parce qu'effectivement, je considérais que, en général, dans vos développements, il y a, par une aporie, disons, une contradiction soft. Justement, on arrive, puisque vous insistez sur les dérives écologiques, etc., on arrive à cette contradiction des... Et alors, cette durée de l'espérance de vie, etc. Je me demande si dans vos développements, pour atténuer ces effets paradoxaux, en tout cas grossiers, c'est comme ça que je les conçois, il n'y aurait pas un moyen d'internationaliser l'objet, c'est-à-dire de rendre ces réflexions vraiment, carrément et d'une façon volontaire, planétaire. On ne peut pas parler, enfin c'est comme ça que je l'ai perçu, comme vous l'avez dit, des impacts des pesticides, etc., etc., et tout en même temps considérer que dans le dernier siècle, on avait augmenté justement, je ne vais pas reprendre le sujet, mais c'est vrai que les 35 ans ne sont pas répartis d'une façon égale sur la planète. Et effectivement, dans certains points, il y a vraisemblablement une diminution, encore que je me demande si au Zimbabwe, il y avait des statistiques qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé ces 100 dernières années. J'arrêterai là. Les analogies que j'ai trouvées intéressantes, vous m'excuserez, il se trouve que par profession, je travaille dans les matières plastiques. Et je pense que les analogies... sociétales, philosophiques, etc., scientifiques, ne sont pas toujours ridicules de voir ce qui s'est passé avec la physique. Et vous avez parlé de réticulation et de réseau, de relations faibles et de relations fortes. Il se trouve que quand on veut donner une mémoire thermoélastique à de la matière plastique, on casse les relations faibles et on renforce les relations fortes. je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons, vous développez un processus industriel avec une pièce en matière plastique ou un tube. En général, c'est une irradiation ou une cuisson chimique, peu importe. Il se trouve que ce tube ou cette pièce, vous pouvez la dilater. Elle reste à cette forme dilatée, c'est-à-dire elle n'a pas la forme qu'elle avait au moment où vous l'avez fabriquée. Et en lui apportant de l'énergie, de la chaleur, tout simplement, eh bien, cette pièce ou ce tube revient à la dimension originale. Or, vous avez dit, enfin, cette personne qui a fait cette conférence a dit que les relations fortes, ce sont chez les adolescentes, les relations faibles, chez les adolescents. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette analogie en disant, mais alors si on continue cette image, est-ce que en gardant ces relations fortes, est-ce que nous n'allons pas vers une conservation du statu quo ante? C'est-à-dire que dans les sociétés, si on garde une certaine dose, une dose importante de relations fortes, qui serait portée par les femmes, les adolescentes sont les futures femmes de la société, est-ce que nous n'allons pas... Je ne suis pas macho, hein. Simplement c'est l'analogie qui me fait arriver à ça. Est-ce que nous n'allons pas vers un certain conservatisme familial, vous en avez parlé aussi, ça peut poser question, en tous les cas c'est une analogie, excusez-moi, je suis peut-être le seul à la trouver intéressante, mais vu que je suis dans ce domaine, j'ai trouvé que l'analogie pouvait faire intérêt. Et enfin, dernière analogie, vous avez parlé la dernière fois et encore aujourd'hui de la vitesse et qu'il était important de travailler sur la vitesse dans la société et dans la société de transmission des données et de l'information. Il suffit de rappeler que dans toute équation de distance, vous dérivez et vous obtenez la vitesse. Or, ce sont les produits dérivés qui nous ont causé tout ce souci. Tous ces soucis financiers. Je trouvais intéressant qu'on puisse rapprocher ces deux dérivés.
J'avais, cela dit, parlant de vitesse, parlé justement de ces produits dérivés la première fois que j'en ai parlé. Pour revenir à la question de la durée de vie, bon, c'est un vaste sujet. Bon, moi, je pense que la question, c'est pas simplement la durée de vie, c'est qualité de l'existence et la différence entre la subsistance et l'existence. C'est-à-dire qu'on peut vivre très très longtemps. En prison, par exemple, il y a des gens qui vivent très 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 longtemps. Et c'est une bonne manière de rester vivant. Bon. Mais est-ce que ça vaut le coup? Bon. Ce que je veux dire, c'est que... Enfin, ce que je voulais ajouter sur ce point-là, c'est... Un des trucs qui a rendu célèbre Amartya Sen, quand même, hein, c'est qu'il a montré qu'à Calcutta, on vit plus longtemps qu'à Manhattan. Enfin, pas qu'à Manhattan, qu'à Harlem. Et que... Alors, je pense que c'est un type sérieux, Amartya Sen. Ça m'étonnerait qu'il ait lancé ces choses au hasard. Hein. Voilà, il a montré qu'on a une durée de vie beaucoup plus importante à Calcutta que... Une espérance de vie, qu'à Harlem. Bon, c'est dans son grand livre le plus connu là qu'il dit ça. J'en parlerai d'ailleurs. Voilà, c'est des questions compliquées. Hein. Je crois qu'il faut rentrer dans les détails. Et je n'y entre pas moi suffisamment. Hein. Donc je vous remercie de vos questions. Hein. Ça m'oblige à y rentrer. Mais en tout cas, ce sont des questions complexes. Alors, sur la relation forte, relation faible et du plastique, hein, de la plasticité matérielle à la plasticité. Sociale et la mémoire thermoélastique. Qu'est-ce qu'on appelle relation forte ici, hein? J'ai sélectionné comme ça parce que c'est évidemment très parlant la différence chez les adolescents entre relations faibles et relations fortes dans la santé de l'adolescent. Mais cela dit, ça c'est un type de relation forte. Après, et puis il y a d'autres âges de la vie. Il y a d'autres types de relations fortes. On pourrait peut-être dire, par exemple, que la relation entre la mère et l'enfant est peut-être plus forte que, etc. J'en sais rien, hein. Je ne sais pas si ça a du sens par rapport à ça. Chez le bébé, et que jusqu'à un certain âge, et qu'après la relation se déplace, et qu'elle va peut-être être plus dans l'éducation paternelle. Ou, vous voyez, bon, je pense qu'on peut... Il y a tout un développementalisme, si je puis dire, de la relation. Et que, par exemple, selon qu'on appartient à tel type de société, etc., vous allez avoir des modes relationnels très très différents. Par exemple, dans des sociétés où la chefferie est une organisation sociale dominante, etc., peut-être que les relations... Vous voyez, bon, il faut rentrer dans les détails. Donc, parce que là, on parle de force de la relation produite par la libido, et pour moi la libido est pharmacologique, ça veut dire qu'elle est organologique, et ça veut dire que, par exemple, moi je considère que la libido du 19e siècle pratiquement très peu de choses à voir avec la libido du 21e siècle. Je pense que l'organisation libidinale disons des hystériques qu'analyse Freud avec Charcot à la fin du 19e, et là, l'organisation libidinale d'aujourd'hui, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et là, il y a une plasticité pour le coup. Vous voyez, je crois, hein, une des grandes questions étant d'arriver à identifier des omnitemporalités de l'économie libidinale, c'est-à-dire ce qui se maintient, alors par exemple, interdit de l'inceste, etc. Voilà, c'est ça une des grandes questions de la pharmacologie, d'ailleurs, dont j'essaie de parler ici. Mais voilà ce que je répondrai par rapport à la question des relations fortes et de la plasticité. Il y avait d'autres questions, oui. Merci, merci, merci de cette observation. Il n'y a plus de questions.
Merci pour ceux qui agissent et qui ne sont pas des moutons. Vive la révolution!
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'ai une question.
Oui.
Moi, je ne sais pas si je vais arriver à la formule, c'est pas grave. Je vais essayer. Ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est votre notion de la santé. C'est-à-dire que vous avez parlé de top-downisation de la société et de bottom-isation de la société. Enfin, vous avez employé ces termes un petit peu barbares, mais enfin, j'ai cru comprendre un peu ce que vous vouliez dire par là. Et j'ai l'impression que le surgissement de l'individu est rendu de plus en plus difficile par l'intensification de ces processus, à la fois de top-downisation et de bottom-isation. Et je pose la question si finalement la question de la santé, elle n'est pas liée quelque part à l'intensification du processus de présence à soi et au monde, qui peut permettre quelque part, parce que vous avez dit à un moment donné, la transindividuation, c'est ce qui permet l'agencement du processus de top-downisation et de bottomisation. Je trouve que, enfin, je sais pas, c'est même pas une question, c'est juste. Il y a quelque chose là qui me semble extrêmement fertile, comme un surgissement, comme quelque chose qui pourrait éclore. Hein. Voilà.
Juste pour préciser de quoi je parle quand je dis ça, bon, c'est effectivement très barbare de parler comme ça, parce que, en plus, je n'ai pas développé ce que j'appelle top-down, bottom-up, etc. C'était à l'occasion d'une question, mais qu'a posé monsieur, parce qu'il était à une conférence que j'ai faite à Londres où j'ai parlé de ça. Donc, j'ai essayé de montrer dans cette conférence que ce qu'on appelle généralement en linguistique saussurienne le diachronique, c'est-à-dire la production de différences par la parole, qui fait que en parlant vous idiomatisez la langue, vous la marquez plus ou moins de votre, par exemple vous inventez une nouvelle façon de parler. Vous pouvez le faire en tant que poète, en tant que chef de bande, en tant que présentateur de télévision, en tant qu'écrivain, en tant que scientifique, bon, enfin bref, ou en tant que tout simplement paysan qui fait varier son... Voilà. Et ça, on appelle ça le diachronique, c'est ce qui fait l'évolution de la langue. Et en même temps, cette langue ne peut évoluer que si elle se synchronise, parce qu'il faut bien qu'il y ait des espaces publics, des espaces de rencontre ou le diachronique pour pouvoir se produire. Doit composer avec une synchronisation. Voilà. Cette synchronisation pouvant être à toutes sortes de niveaux. Bon. Et à un moment donné, conduisant avec l'élite Villers-Cotterêts à une politique de la langue portée par la monarchie française, avec la création de l'Académie royale, l'Académie française. À une officialisation de la manière de parler. Il se passe la même chose avec Blanche de Castille en Espagne, à peu près au même moment, etc. Bon, ça, c'est d'ailleurs, c'est ce que décrit le concept de grammatisation de Sylvain Henroux. C'est aujourd'hui ce qui se rejoue, selon moi, à travers les réseaux numériques, sous le nom de top-down, bottom-up. Voilà. Et je pense que si on veut vraiment reconstituer de l'individuation, au sens où c'était votre première question, et du rapport à soi, moi, je suis simondonien, c'est-à-dire que je pose que le rapport à soi ne se constitue que dans la mesure où je suis capable de nouer un rapport à l'autre à travers mon rapport à moi, si je puis dire. Donc, il n'y a pas le moi d'un côté, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors, la question, c'est d'arriver à constituer des dispositifs de transindividuation et donc de tricoter ces différentes dimensions. Et c'est ça que j'appelle une écologie relationnelle. Voilà. On va...
Oui. Signifie une relation de un ego à la terre.
Alter, oui.
Mais dans le cas de l'utilisation si répandue des nouvelles technologies relationnelles, est-ce qu'on peut encore parler de relation? Parce que c'est l'objet qui fait éventuellement qui prend la place de l'alter. Ce n'est pas un sujet véritable, celui qui est au-delà, disons, de l'écran technologique, quoi qu'il soit. Donc, j'ai l'impression qu'on devrait commencer à réfléchir aussi sur la transformation de la relation en manipulation de plus en plus fréquente qui est engendrée en même temps par l'utilisation de certaines technologies. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais là, ça, je pense, c'est une question de développement de ce que j'appelle parfois des pratiques instrumentales, nouvelles pratiques instrumentales. Parce que on a eu cette discussion, d'ailleurs, justement, avec des profs de Goldsmiths College à Londres, Götz Bachmann, en l'occurrence, et Yuk, j'ai oublié son nom, c'est un informaticien, un philosophe chinois, qui enseigne là-bas, j'ai oublié son nom de famille. Précisément parce que un des deux, l'Allemand, disait mais une liste c'est pas un réseau. C'est évident qu'une liste c'est pas un réseau. C'est pas parce que j'ai sur ma liste 200 ou 300 noms que j'ai un réseau social. Mais la liste rend possible le réseau. C'est-à-dire, il faut pas confondre évidemment les fonctions qui rendent possible un réseau avec la réalité d'un réseau. Un réseau c'est vivant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait réellement des relations. Je racontais, je vous dirai pas de qui il s'agit, mais j'ai raconté ça tout récemment. Un jour, j'ai reçu un mail d'une femme que je connais, brésilienne, qui commençait « Veux-tu être mon amie ? Rejoins-moi sur Facebook. » Et je lui ai répondu, mais enfin, je te connais depuis 10 ans. Et je croyais qu'on était amis, je m'aperçois qu'on ne l'était pas, donc terminé. Voilà. Ça m'a vraiment choqué. En plus, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de connu, je vous dirai pas qui, mais c'est voilà. Bon. Comment le truc peut détruire une relation? Ça, c'est une destruction de relation, pour moi. Je pense, si vous voulez, que c'est moi, je dis des pratiques instrumentales et des agencements à faire. C'est ça que je considère devoir relever d'une politique, justement. Les hypomnémata dont Foucault décrit comment le stoïcisme, l'épicurisme, le christianisme primitif, etc., à un moment donné, en font des dispositifs relationnels, sont au départ, il le rappelle très bien, ce sont des techniques de calcul. Ce n'est pas du tout des choses relationnelles. Enfin, si, ça crée des relations entre des nombres, c'est-à-dire des relations au sens où n'importe quel algorithme est une relation. Donc on en est tout à fait d'accord. Mais ça, c'est la pharmacologie, typiquement. C'est ça, les questions. Et donc les questions, c'est comment la thérapeutique peut ou pas produire quelque chose de l'ordre d'une relation, une relation qui va s'enrichir au lieu de se détruire. Pour moi, principe de base de la pharmacologie, un pharmacone commence toujours par détruire. Ça, c'est ma conviction profonde. Il commence toujours comme ça. Et ce n'est qu'après qu'il y a un processus de contre-tendance qui va... ça se discute, hein. Il y a sûrement des contre-exemples, certainement. Mais enfin, moi, je pense que c'est comme ça que ça marche. Bon, on arrête là. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine. Merci.
C'est bien le 17 et pas le 16, comme ça a été indiqué.
Ah, c'est mercredi, oui. Qui est-ce qui avait indiqué le 16?
Dans un message, on a parlé de 10 et 16.
Ah oui, non, c'est mercredi.